Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Au nom du Musée des Arts et Métiers, je suis très heureux de vous accueillir dans cet amphithéâtre du CNAM, dans le cadre donc de l'événement Futur en Transmission qu'on a organisé avec l'INMA pour les Journées Européennes des Métiers d'Art. Je vous invite tous à venir voir cette exposition qui a lieu dans la salle d'exposition temporaire du musée. L'entrée se fait par le 60 rue Réaumur. Cette rencontre donc est la première rencontre d'un cycle de performances, de conférences et de débats qui auront lieu jusqu'au 22 avril. Je vous invite à venir prendre le programme qui se trouve ici. Ce projet donc a été l'occasion de mener un travail avec les écoles d'art appliqué de la ville de Paris. Donc on est très heureux aujourd'hui d'accueillir cette rencontre qui est organisée par les Compagnons du Devoir. Je vais laisser Nicolas dire aussi un petit mot pour l'INMA. Merci.
Oui, bonjour à tous, merci d'être ici. Oui, on a eu cette idée avec Grégoire il y a quelque temps de proposer une rencontre un peu pas disruptive, enfin c'est le mot à la mode, mais pour parler d'un sujet qui est fondamental, central, la transmission, mais de manière un peu différente, un peu moins conventionnelle ou académique. Et c'est d'ailleurs en résonance avec ce qu'on a voulu faire nous avec le CNAM, InMy CNAM, dans ce projet qui est présenté dans le musée, une proposition aussi très expérimentale et iconoclaste et non conventionnelle, vous le verrez par vous-même et on vous invite à y aller. C'est jusqu'au 22 avril. Et puis dire aussi, donc merci Grégoire aussi d'avoir, qui va être le chairman de cette séquence. Merci à tous les invités d'avoir répondu présent et ils sont de qualité et merci beaucoup vraiment. Et de vous dire aussi que ce soir on fait un pot au pop-up store de l'INMA au 53, je crois, rue de Nazareth, au NAMA. Ça s'appelle le NAMA, mais c'est jusqu'à dimanche, c'est le pop-up store de l'INMA, avec toute cette opération qu'on a organisée dans le cadre du triangle arts et métiers avec le Slow Made et Made in Town. Voilà.
Bonjour à tous, je vous remercie d'être présents aujourd'hui. Je remercie à ceux qui ne sont pas restés bloqués au soleil sur une terrasse, ceux qui ne sont pas restés dans un train ou dans une gare, ceux qui n'ont pas trouvé de prétexte pour aller d'abord visiter l'exposition au Musée des Arts et Métiers et ceux qui sont venus tout simplement nous rendre visite. Je suis très heureux de vous trouver ici aujourd'hui. Je voudrais remercier tout d'abord le CNAM et le Musée des Arts et Métiers de nous accueillir ici. Remercier surtout l'INMA pour ces Journées Européennes des Métiers d'Art qui nous permettent de nous retrouver tous les ans entre professionnels, amateurs, spécialistes, passionnés. Cette conférence, effectivement, cette table ronde, nous l'avons souhaitée parce que nous sommes rendus compte que cette notion d'apprentissage qui nous était tous chère, qui est complètement inhérente à cette idée de futur en transmission, elle avait des formes très très variées et très complémentaires. Je suis moi-même donc directeur de pôle d'excellence des matières souples pour les Compagnons du Devoir. Je connais très bien cette institution et le mode d'apprentissage qu'elle propose, mais je suis aussi très sensible à tous les autres modes d'apprentissage que les métiers d'art et l'artisanat en général proposent. Et dans la discussion avec Arnaud, dans la discussion avec Nicolas, avec l'équipe de l'INMA, nous avons souhaité donner la parole à tous ces apprentissages pour vous permettre, pour nous permettre de prendre conscience de leur complémentarité, de leur richesse, de leur diversité. Alors, je voudrais tout d'abord vous présenter nos invités, des invités talentueux qui sont venus en nombre pour partager ce sujet avec nous. J'ai décidé de choisir l'ordre alphabétique parce que leur talent est égal et je ne me voyais pas choisir une autre hiérarchie. Donc, je vais commencer par le studio Brichet-Ziegler. En personne, nous avons Pierre Brichet et Caroline Ziegler, qui sont un duo de designers composé en 2010. Récemment lauréat du Grand Prix de la création de la ville de Paris en 2017 et également auteur d'une gamme de produits réalisés en autoproduction en atelier qui s'appelle By Hands et dont ils vont nous parler au long de cette table ronde. Je voudrais également vous présenter Alberto Cavalli. Bonjour Alberto. Alberto qui est co-directeur exécutif de la Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship. Il est directeur de la Fondation Colonie pour les métiers d'art. Il est également chercheur et journaliste, professeur à l'Université Polytechnique de Milan et professeur invité à la Creative Academy. Et il est co-auteur du livre The Master Touch, dédié à l'excellence artisanale, dont je vous conseille la lecture. Je vous présente également Sébastien Cordelani, Sébastien, ici présent, designer et créateur de la marque Archipel, qui est une marque de maroquinerie en autoproduction, sans couture, voilà, qu'on pourrait placer dans la catégorie des makers d'une certaine manière, mais on en parlera un peu plus en détail avec Sébastien dans la suite. Gérard Descamps, bonjour Gérard, qui lui-même est graveur et réaliste, petit-fils de graveur et réaliste. Gérard nous parlera peut-être de cette notion d'héraldiste, justement, qui contient toute une sémantique intéressante. Il est meilleur ouvrier de France, maître d'art, président, ex-président de l'Institut national des métiers d'art, et il a contribué à contemporaniser son métier et à faire redécouvrir les sceaux cylindriques de Mésopotamie. Je vous présente également Marc Jarousseau, compagnon tapissier, directeur des Compagnons du Devoir et du Tour de France pour la région Île-de-France, ancien délégué national des métiers des matériaux souples et ancien conseiller au Tour de France de 2011 à 2015. Je vous présente enfin Jérémy Maxwell-Wintreberg, bonjour Jérémy, qui est souffleur de verre, formé entre les États-Unis et l'Europe de 1998 à 2007, installé en France depuis de nombreuses années, qui a ouvert son studio en 2015 à Paris, où il pratique une création contemporaine et développe des installations in situ. Voilà, merci à tous de votre présence aujourd'hui. Je vais mener l'échange, mais n'hésitez pas à interrompre mon flot de questions, j'en ai beaucoup à vous poser. Ces questions, n'hésitez pas à les poser du public également. On est un petit groupe dans une salle qui permet de prendre la parole facilement, donc n'hésitez pas à demander le micro, on a des micros à disposition, il y en a un sur le pupitre. Alors je vais d'abord m'adresser à Gérard Descamps pour commencer cet échange. Je voudrais avoir ton avis, Gérard, car tu es l'héritier d'une lignée d'héraldistes, et c'est un métier qui est dans ta famille depuis plusieurs générations. Je voulais te parler de vocation, savoir si ça a été une évidence.
Attends, celui-là a l'air de fonctionner. Merci à toi.
Gérard, donc je voulais savoir si ça avait été une évidence de reprendre le flambeau familial.
Ça y est, on va faire une psychothérapie, là. une évidence. Non, moi, si tu veux, il faut se replacer dans le contexte temporel. C'est l'année 66, j'avais 15 ans. Je voulais être prof de gym. Et puis, donc, l'orientation se faisait en troisième, soit voilà, pour être prof de gym, il fallait faire un bac. Si tu voulais être artisan d'art, graveur, par exemple, tu rentrais dans une école spécialisée, donc tu faisais une seconde technique. Donc, j'ai eu une conversation avec mon père, on n'en avait pas beaucoup. Et donc là, ça a été l'occasion, et il a été très, très bon là-dedans, parce que il ne m'a pas du tout dit voilà, ton grand-père était graveur, je suis graveur, tu seras graveur. Il m'a dit voilà, si tu es prof de gym, bah oui, tu aimes bouger, tu as 15 ans, mais tu sais, tu auras toujours des étudiants qui n'auront pas envie de bouger, ou des choses comme ça. Et il ne m'a pas parlé de gravure, il m'a parlé d'une qualité de vie et de prise en main un peu de sa vie et de son avenir professionnel. Et je crois que j'ai été sensible à cette notion de liberté et de prise en main de son avenir, si tu veux. Et donc, j'ai opté pour rentrer à Estienne, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas 36 solutions quand on voulait faire de la gravure. On allait soit à Boulle, soit à Estienne. Mon grand-père ayant fait Estienne au 19e siècle, je dis, on va retourner à l'école du grand-père, et c'est amusant. Donc je me suis précipité, suivre des cours du soir de la ville de Paris, de dessin, et puis voilà. Et donc j'ai donné mes premiers coups de burin, j'avais 15 ans, et ça fait pas mal d'années, oui. Donc c'était pas une évidence, c'était une évidence par le discours du père, mais qui à aucun moment, tu vois, il n'y a pas eu... Enfin, il y a une pression intelligente. Il m'a dit, tu ne feras pas ça. Il m'a dit, tu peux avoir une vie d'homme libre, en gros. C'est ça. déjà quand j'étais sensible à ça. Ouais.
Alors, il n'y a pas de meilleure transition vie d'homme libre pour parler du parcours de Jérémy. Jérémy, toi, tu as, on peut le dire, une vie d'homme libre avant d'aller vers le métier. On ne peut pas vraiment dire que tu sois l'héritier d'une génération, de plusieurs générations de souffleurs de verre. Ton parcours est assez singulier. Qu'est-ce qui a provoqué le déclic ou les déclics dans ton cas pour t'amener vers ce métier?
Oui, donc effectivement, enfin, mes parents n'étaient pas artisans. J'ai grandi en Afrique, dans la brousse. Mais du coup, j'étais entouré de gens qui travaillaient avec leurs mains. Enfin, j'ai grandi dans cet univers-là. Et à l'âge de 5 ans, je suis tombé dans une pile de verre. Donc c'était une rencontre assez douloureuse avec le verre. J'en ai fait une obsession. J'ai voulu fondre le verre pendant des années dans le four de la cuisine. Ma mère était assez... c'était un peu compliqué. Mais souffleur de verre, je n'avais jamais vu ça. En Afrique, il n'y en avait pas. J'ai commencé très jeune à travailler avec mes mains parce que j'adorais ça. Et mes parents, ma mère, c'était un peu une hippie américaine. Enfin, elle trouvait ça cool. Et il n'y avait pas d'école. Et du coup, juste pendant très longtemps, en fait, j'ai commencé à travailler la céramique, le bois. Je travaillais dans les marchés. Et c'est vrai que pendant tout ce temps-là, il y avait cette espèce d'appel au verre. Parce que les matières que je travaillais, la peinture aussi, j'ai fait beaucoup de peinture. Il y avait un truc qui manquait, quoi. Et donc, en fait, à 18 ans, par le biais de certaines rencontres, j'ai atterri dans un atelier de verre, de soufflage. Et là, j'ai vu la matière en fusion au bout de la canne. Je pense que même j'étais un débutant qui jouait un peu avec la matière. Et voilà, en une seconde, je savais ce que j'allais faire le reste de ma vie, quoi. Et du coup, j'ai commencé à travailler. J'ai continué à faire ce que j'avais toujours fait, c'est travailler. Donc j'ai commencé à travailler à l'âge de 18 ans dans les ateliers.
Et est-ce qu'il y a eu certaines rencontres qui ont été prépondérantes dans cette vocation, dans cette naissance de vocation?
C'est vrai qu'au début, je voyais vraiment ça comme un... J'avais pas encore fait l'association entre la créativité et la technique. Et assez rapidement, je suis allé à une expo d'un artiste qui s'appelle Billy Morris, qui est un des plus grands artistes verriers américains des années 90. Et ça m'a totalement transcendé. Et j'ai découvert un artiste qui utilisait le verre et on oubliait que c'était du verre. Et ça m'a, je m'en rappellerai toujours de cette expo. Je me suis dit, il n'y a pas de limite en fait. Et ce jour-là, la créativité et la technique dans ma tête, on fait un. Et du coup, j'ai les gens chez qui je voulais travailler, c'était des artistes comme lui. Enfin, des artisans, des artistes comme lui. Et du coup, j'ai fait ça pendant 10 ans.
Merci. Marc, le témoignage de Jérémy est une espèce de tour de France, tour du monde réinventé d'une certaine manière, puisque Jérémy a appris en entreprise, d'entreprise en entreprise. Chaque année, chez nous, chez les Compagnons du Devoir, on a des centaines de jeunes qui nous rejoignent pour apprendre un métier. C'est quoi leur profil? C'est quoi leur motivation?
Alors, leur motivation, effectivement, chez les Compagnons du Devoir, on accueille environ 6000 jeunes chaque année dans 30 métiers différents, 6 filières. Et c'est vrai que ces jeunes, depuis quelques années, viennent par choix et non plus par défaut. C'est-à-dire qu'ils viennent vraiment pour apprendre un métier. Et c'est vrai qu'on parlait à un moment donné de liberté. Et je pense que c'est ça. Ils viennent pour un métier, mais en même temps pour apprendre un vrai parcours professionnel. L'idée, c'est effectivement ce temps. Le Tour de France dure en moyenne, Tour de France Tour du Monde dure en moyenne 5 ans. Dans les 5 années, ces jeunes voyagent en France et à l'international. et on multiplie effectivement les expériences. Donc on fait environ 11 ou 12 expériences pour un tour de France. Et c'est cet esprit de voyage, de découverte, chez nous le vivre ensemble est aussi des vertus que l'on travaille, puisque l'idée c'est de pouvoir, ces mêmes jeunes sont hébergés dans nos maisons de compagnons, et tout ça, ça fait une aventure humaine qui les amène à avoir des projets qui dépassent bien au-delà le cadre du simple apprentissage, du simple diplôme. Hein, on est là pour apprendre un métier, et ensuite ce même métier sert à créer sa propre entreprise ou à prendre des postes à responsabilité. Voilà.
Chez les compagnons, partir sur le Tour de France, c'est quand même quitter sa famille, quitter ses amis, quitter d'une certaine façon le nid douillet, le confort familial. C'est quand même un engagement important. Qu'est-ce qui les pousse sur la route du compagnonnage, les jeunes? Qu'est-ce qui fait qu'ils acceptent de rompre les amarres et d'aller vers une certaine forme d'inconnu?
Oui, c'est vrai que c'est une formation originale à ce titre. La découverte, c'est là où on apprend vraiment par la rencontre, par la richesse des expériences différentes, et c'est ça qui les pousse. Le fait de la mobilité est un gage évident d'employabilité. Enfin, ça, c'est quand même des notions qui sont réelles aujourd'hui. Et le fait de multiplier des expériences différentes en entreprise et en complémentarité le soir, en cours du soir, permet d'acquérir un certain nombre d'expériences qui fait qu'au bout d'une certaine expérience, on est autonome et libre et on fait les choix que l'on souhaite faire pour ensuite envisager sa carrière. Voilà.
Alors, je m'adresse maintenant un peu aux outsiders de la table ronde qui est rectangulaire. Je vais commencer par Caroline et Pierre. Vous, vous avez ce travail avec la collection By Hands, qui est un travail en atelier. C'est une démarche assez singulière pour des designers. Sébastien nous parlera de son approche par la suite, mais qu'est-ce qui a créé le déclic? Qu'est-ce qui vous a donné envie de passer de la table à dessin à l'atelier? Est-ce que c'était déjà dans vos gènes, ou est-ce que ça s'est fait comme une découverte?
C'est venu en fait assez naturellement, je crois. Moi, de mon côté, il y a toujours eu beaucoup de machines à la maison.
Ah, pardon.
Il y a toujours eu beaucoup de machines à la maison, et on avait toujours, du coup, chez mes parents, quand j'étais à la maison. Et donc, on a toujours un peu bricolé. Et après, dans la pratique du métier, on a toujours fait un peu nos prototypes pour présenter aux éditeurs. On voulait rentrer toujours dans une certaine... Donc quelque chose d'assez concret, ça permettait de résoudre pas mal de problèmes, et puis d'aller vraiment avec la matière. Et puis, si vous connaissez un peu le métier d'édition, c'est vrai qu'on a toujours beaucoup de prototypes ou de dessins qui restent dans les tiroirs. Et à un moment donné, c'est poser la question de dire, mais je suis encore un peu ému sur les premiers flots de parole. Se dire mais pourquoi on va pas les faire au final et essayer de s'auto-éditer et de faire une petite marque comme ça pour y aller et puis respecter un peu au final presque l'objet et le finir pour de vrai au final. Pour que d'un seul coup on en parlait avec Jérémy juste avant, mais on en est responsable puisqu'on va le vendre et du coup c'est pas juste un proto qui est juste pris en photo. C'est aussi vrai que dans ce métier il y a quand même... avec toute l'arrivée des images 3D, de toutes ces choses-là, on est dans quelque chose dans un métier de l'image qui devient complètement virtuel, et là on retrouvait quelque chose d'assez tangible à travers les objets. Donc là c'est vraiment franchir le pas et de se dire on va les vendre, donc on en est vraiment responsable et il faut que ça tienne debout. Donc il y avait vraiment ça d'un côté, puis après cette envie d'un seul coup d'explorer toutes ces matières. Et donc voilà, c'est soit ça vient, nos projets viennent souvent de la matière quand on les dessine. Du coup, là, ça faisait sens d'y aller directement par la matière. Et puis après, c'est venu assez simplement. On avait quelques machines. On a acheté ce qu'il fallait. On est tourné comme on a commencé par une lampe en cuivre. On a acheté un bout de cuivre, trois marteaux, sculpté une forme en bois. Puis c'était parti, on tapait quoi. Et d'un seul coup, là, c'est. Ça devient magique, quoi, puisqu'on crée la forme qu'on a dessinée, qu'on a fait en rendu 3D, dans ce coup, elle devient réelle, on passe au polissage et tout est là. Après, on apprend, hein, et on fait beaucoup d'erreurs.
Caroline?
Oui, bon, bon, c'est vrai que dans la formation de design, la question de la fabrication est toujours un peu présente dans les écoles de design. On va à l'atelier, on apprend à bricoler. Alors, contrairement à Pierre, moi, j'ai aucune base ou histoire familiale autour du bricolage ou de la fabrication. Bien au contraire, donc moi, je me suis toujours même un peu fait violence pour aller bricoler à l'atelier quand j'étais étudiante. C'était pas forcément ce que je préférais faire. Et puis après, voilà, dans la pratique du métier, on n'a pas toujours l'occasion d'avoir un atelier à disposition. Et c'est vrai que quand on a commencé à travailler ensemble, cette question de la fabrication est venue assez naturellement, puisque Pierre avait des outils, des machines, tout ce qu'il fallait, et pas mal de connaissances aussi. Et quand on a eu l'idée de faire By Hand, c'était une manière de questionner aussi sur la pratique du design aujourd'hui, comment est-ce qu'on pouvait faire évoluer notre métier et évoluer notre manière de travailler pour l'enrichir. Et c'est vrai que j'ai suivi un peu le mouvement de l'atelier. J'ai pas les mêmes connaissances, mais c'est bien aussi dans un atelier d'avoir une petite main qui aide. Donc j'ai plutôt ce rôle-là en général, parce que j'ai pas forcément moi les connaissances technique ou la sensibilité que peut avoir Pierre assez naturellement sur une nouvelle technique. Mais malgré tout, c'est très intéressant parce que le fait de faire, de se confronter à la matière, autant que ça prend, je pense beaucoup. C'est une tâche qui ne nécessite pas forcément de connaissances particulières, si ce n'est un peu d'attention. Et quand on commence à s'y mettre, justement quand c'est pas quelque chose de naturel, mais ça permet de comprendre beaucoup de choses sur les objets qu'on dessine et sur la manière dont ils sont fabriqués. Et je trouve que ça permet aussi de gagner en prise de conscience de notre pratique du métier en général. Et aujourd'hui, c'est quand on dessine un objet même hors du cadre de notre collection auto-édité, quand on dessine un projet plus industriel pour un fabricant, le fait d'avoir conscience de comment se font les choses, est-ce que le temps que ça prend, est-ce que telle opération suscite, c'est quelque chose qui apporte aussi beaucoup à la réflexion. Donc c'est quand même bien de pouvoir mettre un petit peu la main à la pâte.
Alors maintenant, je me tourne vers Sébastien. Sébastien, toi aussi, tu fabriques toi-même certains objets que tu designes, dont la collection Archipel. Tu as une longue expérience de collaboration avec l'artisanat, mais là, c'est un petit peu différent parce que c'est de la grande série, enfin, c'est de la moyenne série, je dirais.
De là ?
De la moyenne série, c'est pas de la petite série micro-éditée. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te frotter à la production artisanale ?
En fait, c'est pas du tout venu comme ça. Je me suis pas dit je vais devenir artisan. C'est plutôt que je m'étais aperçu que je travaillais énormément avec des feuilles. Enfin, que étant étudiant, je faisais beaucoup de maquettes. Moi aussi, j'avais peur d'aller dans les ateliers. Donc, je commençais toujours par faire des maquettes en papier, en carton. Et ça devenait un élément déterminant dans l'esthétique de mes projets. Donc, j'avais du mal, par exemple, après à changer de matière, puisque je travaillais beaucoup avec des plis. Et c'est quelque chose qui est resté, même si je faisais des projets d'autres natures à côté. En fait, j'ai fait une lampe, ça s'est passé en fait avec une série de rencontres. J'ai fait une lampe qui était faite d'une seule feuille pliée avec un petit bandeau de LED à l'intérieur. Un éditeur est venu vers moi pour me la demander. Je l'avais déjà promise à Moustache, donc j'ai fait un autre projet avec cet éditeur, qui était Objectum, et qui m'a proposé de travailler en résidence sur une île qui s'appelle Isola Comacina sur le lac de Côme, une semaine avec du cuir recyclé pour faire des petits objets pour l'habitat. On voit les corbeilles qui sont au-dessus, là, tout en haut, en font partie. Et il s'est trouvé que mon frère qui était dans le coin est passé me rendre visite, parce que j'étais comme un ermite pendant une semaine, et il avait besoin d'un sac. Et du coup, je lui ai fait un sac en déclinant ce principe-là. Et l'idée est née comme ça, et ensuite, j'étais à faire d'autres missions ou essayer d'être édité, etc. Donc les années sont passées. Donc entre 2012 et 2015, j'ai continué à imaginer le projet. Et j'ai fait un cadeau plus tard qui était un sac à main. Et j'ai commencé à avoir des demandes, des demandes d'amis, etc. Ce qui m'a permis de plonger dans cet univers-là et de décliner toute une collection. mais j'ai mis du temps en fait à me dire que j'allais faire des sacs à main. J'avais un petit blocage. Voilà.
Merci. Alberto, vous avez rencontré de nombreux artisans d'art pour vos livres et vos travaux. On a une brochette de témoignages très différents sur la naissance des vocations. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur les facteurs récurrents ou sur les grandes différences que vous avez pu voir à travers vos rencontres sur cette naissance de vocation?
Bah oui, évidemment, il y a des facteurs récurrents qui, je dirais, sont intrinsèques aux jeunes personnes qui décident d'avoir le courage de devenir les maîtres d'art du futur et qui viennent aussi de l'extérieur. D'un point de vue, disons, les facteurs intrinsèques qui recourent évidemment les talents. Bon, les talents, c'est un don du Père éternel, mais en même temps, les talents, quelquefois, c'est un peu caché, disons. Il faut aider aussi, non? Je parle pour non, les centaines de jeunes personnes auxquelles chaque année la Fondation finance un apprentissage. Il faut vraiment les guider, les aider à trouver un talent qui, à la fin, a toujours une unité de mesure. C'est le talent qui te mesure. C'est jamais toi-même qui mesure ton talent. Et à la fois, la curiosité, c'est un facteur capital pour la naissance des vocations. Une curiosité qui est une qualité, je trouve, innée, mais qu'on peut éduquer. La curiosité qui vient évidemment de la vision. Parce que tout le monde arrive à voir, mais voir et s'émerveiller de la beauté du monde et transférer tout ce que tu vois dans une envie de faire partie, toi aussi, de la création de ces nouvelles formes de beauté. Bah, ça, c'est un élément que nous trouvons dans les meilleurs de nos apprentis. Ensemble avec ça, évidemment, il faut travailler sur la culture des métiers d'art, c'est-à-dire de donner à ces jeunes qui décident vraiment de devenir les maîtres d'art du futur des exemples. Donc, travailler sur la culture des métiers d'art, c'est-à-dire regarder les maîtres d'art, c'est des êtres humains comme vous. Ce n'est pas des super-héros, c'est pas, voilà, le maître, jamais tu arriveras là. Non, non, au contraire. C'est des êtres humains qui ont des yeux, un cœur, des mains comme vous et qui ont fait un parcours intéressant qui vous donne envie de découvrir. Vous savez, chaque grand changement voit le jour grâce à une grande rencontre. S'il n'y a pas ces rencontres avec la réalité des maîtres et du métier, ben c'est difficile qu'il y ait une vocation qui voit le jour, évidemment, puisse être soutenu jusqu'à devenir un véritable choix de vie.
Merci. Alors, on a fait un tour d'horizon de naissance des vocations. Une fois que la vocation est là, ça ne suffit pas. Il faut encore apprendre un métier. Apprendre un métier, c'est toute une histoire, c'est toute une vie. Et Gérard, toi, tu as un petit peu roulé ta bosse. Cet apprentissage, il a commencé plutôt dans une relation maître-disciple avec ton père ou dans tes études à STM. Comment s'est nouée cette relation à l'apprentissage alors que tu avais un contexte familial déjà riche en savoir-faire et une école de renommée où apprendre ton métier?
Ma rencontre tactile avec la gravure, c'était à STM. J'ai passé 4 ans. En réalité, j'ai travaillé que 6 mois avec mon père. Ensuite, il s'est échappé en province et je suis resté tout seul. Mais je pense que ces 6 mois, ont aussi montré que c'est pas évident. Moi, je connais beaucoup d'amis, de collègues qui ont travaillé dans un cadre familial. C'est pas évident. Et connaissant mon père, je pense que c'était une bonne chose et je crois qu'il l'a fait volontairement. Déjà, il aurait pu très bien dire, tu vas pas à l'école, tu viens à l'atelier parce que je suis bon et je vais te montrer ce qu'il faut faire. Non, il a eu cette intelligence, c'est de me confier finalement à d'autres personnes et c'était très bien. Et ensuite, on a passé donc 6 mois ensemble, il est parti et je me suis retrouvé tout seul dans un atelier. Et donc j'ai beaucoup apprécié avec le recul, parce qu'au départ j'ai pris ça comme un abandon, mais finalement il me laissait une semaine, parce que j'allais à la correction tous les week-ends, on n'était pas parti trop loin, et tous les week-ends j'allais me faire corriger, et donc j'avais ma semaine d'autonomie, j'avais ma semaine presque d'autodidacte. La semaine où je tentais des expériences, où je me plantais bien sûr, et j'avais les réponses mais que le week-end. Donc j'ai fait ça pendant des années. Et D'ailleurs, ça s'est ressenti, ce que j'ai enseigné après, ensuite, 25 ans. Et je crois que j'ai toujours laissé à mes étudiants cette partie d'autonomie. C'est-à-dire, oui, bon, bah, t'y arrives pas, bah, cherche un peu, et puis on verra si vraiment tu te plantes. Et voilà. Donc ça, Dieu sait qu'on a eu des rapports très, très difficiles. Mais jusqu'à, tu vois, au moment où je suis sorti des siennes en 70, mon père est décédé en 89, donc de 70 à 89, j'avais ma correction tous les week-ends ou tous les 15 jours, et avec le recul, je me suis dit, finalement, c'était bien, parce que j'avais le retour du maître, et en même temps, j'avais toute la semaine pour me frotter à comment je fais. Alors c'est vrai que c'est confortable si le maître est à côté de toi et que tu vas tout de suite lui demander la réponse. Là, non, je n'avais pas la réponse. Ou alors vraiment dans les cas exceptionnels, mais c'était plus sur la relation avec la clientèle, des devis ou autre chose. Bon, il y avait le téléphone quand même, hein, c'était pas si loin que ça. Voilà, donc ça s'est passé comme ça. Mais avec le recul, je trouve ça vraiment formidable. Un, qui m'est confié à quelqu'un d'autre, pour commencer mon béaba, parce que je ne pense pas que sa pédagogie, il fallait déjà qu'il ait quelqu'un d'un peu confirmé. Donc 4 ans, j'ai eu d'excellents profs à Estienne, c'est vrai, dont un était graveur prix de Rome, et c'était un type super. Et puis ensuite, on a continué sur cette façon de, tu vois, correction, l'autonomie, donc toujours cette liberté d'entreprendre. Voilà. Et ça m'a énormément servi dans le cadre de mon enseignement ensuite, et puis peut-être encore maintenant, je ne sais pas, il faudra demander à Sarah. Hein, si...
Alberto, on a ici un exemple de relation maître-disciple. Quel serait le rôle pour vous de se mettre dans la relation de transmission, d'apprentissage? Comment vous le définiriez? Il y en a probablement d'autres, là c'est assez spécifique, c'est d'un père à un fils.
Bah, vous savez, un maître, c'est pas seulement quelqu'un qui sait faire. Évidemment, un maestro, un maître, c'est quelqu'un qui sait faire et sait transmettre aussi. Sinon, c'est pas véritablement un maestro, un maestro. Et Edmondo De Amici, cet écrivain italien du 19e siècle, disait, il faut toujours prononcer ces mots, maestro, avec la plus grande, avec le plus grand respect. Parce que avec les noms de père, c'est les mots plus douce et plus important qu'un être humain peut donner à un autre être humain. Donc là, c'est vraiment une relation tellement forte et tellement humaine que c'est un peu ça, je me réfère à ce que je disais tout à l'heure, c'est les rencontres qui font la différence. Quand nous mettons un atelier, nos apprentis de la Fondazione Cologne, nous vigilons, nous accompagnons chaque garçon et chaque jeune fille dans l'atelier du maître et nous observons la relation. Si nous voyons qu'il n'y a pas les clics, nous n'activons pas l'apprentissage, parce qu'on sait déjà que ça ne va jamais, jamais marcher. Et pour nous, ça, c'est quelque chose que nous l'avons appris, on a fait quelques erreurs, c'est normal, mais nous avons vraiment appris que c'est dans les relations humaines que ça devient. Ensuite, évidemment, comme les grands chefs, c'est pas que quand vous voyez les chefs à la télé, ils vous donnent la recette, ils vous disent tout, jamais dans la vie. Ou comme dans les Furnaces à Murano, pour les verres soufflés, on disait « rubar colocho ». Les métiers, vous devez un peu les voler avec les yeux, parce que c'est pas que les maîtres verriers vous disaient tout, 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 mais au contraire, ils vous disaient quatre mots en patois vénitien et ciao. Et c'était toi avec ton œil qui devait un peu... Et ça reste toujours, mais ça fait toujours partie d'une relation à bâtir. C'est pour ça qu'on dit toujours, on ne devient pas maître en 6 mois, et on ne cesse pas d'être maître tout comme ça d'un jour à l'autre. C'est le temps, veritas filia temporis. La vérité est toujours un peu la fille aimée du temple, et la relation se développe dans les temples.
À propos de relations qui se développent dans le temps, Marc, on a chez les compagnons un principe qui est le Tour de France, qui amène les jeunes à changer tous les ans, même parfois plus fréquemment, de ville, d'entreprise, d'anciens, c'est-à-dire d'accompagnateurs sur le Tour de France. C'est carrément l'inverse, c'est pas une relation qui est très très variée. Comment est-ce que on crée une relation d'apprentissage, de maître à apprenti dans cette notion de Tour de France?
Le principe, on l'évoquait précédemment, c'est effectivement la rencontre, c'est avant tout, je pense, une expérience humaine. La confiance donnée à un jeune qui vient apprendre, évidemment, elle doit être réciproque, mais chacun, à un moment donné, a eu confiance. Et cette confiance, on l'a donnée, et bien évidemment, c'est là le déclic. Ensuite, effectivement, l'apprentissage, c'est aussi une somme d'essais, d'autonomie, et on dit souvent que l'expérience, c'est la somme des erreurs que l'on a faites. Pour ma part, j'ai beaucoup d'expérience, et je crois que c'est, et on est toujours quelque part apprenti. Et c'est vrai que cette démarche-là, elle est intrinsèque pour celui qui veut vraiment apprendre au maximum de ses possibilités. Et bien évidemment, le parcours original chez les compagnons, c'est cette mobilité, c'est effectivement quitter une entreprise dans laquelle on est bien, pour arriver à en découvrir une autre, pour reconstruire une nouvelle relation, une nouvelle remise en question, qui permet d'une part d'accélérer évidemment le nombre d'expériences, puisque c'est ça l'objet, et en même temps multiplier les rencontres. Et on apprend beaucoup dans la vie de diversité. C'est là où, effectivement, sortir de sa zone de confort, appréhender plusieurs expériences différentes, permet de se forger vraiment un apprentissage. Et une fois que ces expériences-là sont réalisées, au bout de 5 ans, c'est 10 expériences minimum, avec une année internationale, toujours bien évidemment, c'est par la pratique que l'on avance. Et là, ça permet réellement d'avoir un avis assez juste de ce que l'on souhaite faire par la suite et ensuite faire des choix. Voilà.
Alors cette notion de changement permanent d'entreprise, Jérémy, toi tu en as fait pas mal des entreprises, enfin des ateliers avant de monter le tien. Tu as fait combien d'ateliers avant de monter ton propre studio?
Aucune idée.
Beaucoup?
Ouais, j'en ai fait beaucoup, ouais. J'ai fait beaucoup d'ateliers, il y a des ateliers où je passais 2 jours. D'ailleurs, ça me faisait penser à ça. Il y a des ateliers où j'allais et... ça allait pas le faire. Mais après, moi j'y allais de mes propres envies. Et en fait, j'avais des petits boulots à côté parce que souvent ces ateliers ne pouvaient pas me payer, du coup je devais travailler comme barman ou déménageur, enfin ou soudeur dans un temps, enfin plein de conneries. Du coup, j'avais pas une. Enfin, si j'y allais et que je sentais que ça allait pas le faire, je partais assez vite. Donc j'en ai fait beaucoup.
Et comment tu t'es construit ton parcours? Parce que j'imagine qu'au début, tu n'avais pas de connaissance de toute la richesse du métier de souffleur de verre. Qu'est-ce qui t'a permis
non,
de...
Parce que tu me poses la question, tu me dis... Non mais attends, c'est génial. Mon apprentissage n'a pas été une ligne droite. Non, mais ça m'a fait rigoler parce que pour moi, mon apprentissage a été une ligne droite. C'est-à-dire que j'ai été focalisé sur une chose, c'est le savoir-faire. Après, effectivement, l'histoire, elle est rocambolesque. C'est un peu bizarre, mais pour moi, ça a été une ligne droite. Et ta question, du coup, c'est comment est-ce que j'ai...
Non, mais comment c'est construit, effectivement, dans nos échanges
À chaque atelier, son histoire, en fait. Par exemple, là, ce qu'il disait sur Murano, c'est, ça me rappelle la fois où je suis allé à Murano avec mon sac à dos et j'avais fait quelques petites économies. Et je suis allé voir, c'est avant l'invasion du monde d'Internet et tout ça, mais je suis allé à Murano avec mon sac à dos, j'avais entendu parler d'un souffleur de verre qui travaillait une technique qui m'intéressait. Et du coup, je suis allé dans l'atelier de ce mec, quoi. Je n'ai pas appelé. Et le premier jour, il trouvait ça drôle. Le deuxième, c'était moins drôle. Le troisième, qu'est-ce que je foutais là? Le quatrième, il a essayé de me foutre à la porte violemment. Le cinquième, il m'a dit que j'étais fou. Et le sixième, il m'a filé un balai et j'ai commencé à balayer l'atelier. Puis le septième jour, je faisais partie de la famille, quoi. Et j'ai passé 6 mois, Murano, à bosser pour ce maître verrier. Et il m'a rien appris du tout, à part le fait qu'il faut que je sois à l'atelier à 5h du matin, me fermer ma gueule. Mais je suis reparti, c'était la meilleure expérience de ma vie, donc j'ai appris tellement de choses. Parce qu'en fait, dans l'apprentissage, dans le savoir-faire, surtout dans le verre soufflé, c'est beaucoup l'imitation, c'est le geste. Parce que même les maîtres, maintenant que je les connais un peu plus dans le verre, je sais que transmettre ce que je sais verbalement, c'est très compliqué. C'est une intelligence totalement abstraite, c'est pour ça qu'il n'y a pas de livre, par exemple, sur le verre soufflé. Il y en a deux, mais bon... donc eux-mêmes ne savent pas, et c'est assez drôle parce que c'est une relation, c'est des gens qui, Murano, les pauvres, ils commencent à bosser à l'usine à 11 ans, à 12 ans, à 13 ans. Ils n'ont pas une éducation très forte, ils ne savent pas vraiment écrire et tout. Et du coup, ils ont une espèce de relation assez violente, en fait, avec leur intelligence et avec le... Et du coup, d'être leur apprenti, c'est très fort. Surtout quand tu viens comme ça. Ouais, enfin, c'est con, mais... Si j'arrivais 5 minutes en retard à l'atelier, on commençait super tôt. Et lui, c'était un mec qui n'était pas du tout connu à ce moment-là. Du coup, on faisait de la prod de touriste de lundi à vendredi, et le jour du maître, c'était le samedi. Si j'arrivais 5 minutes en retard, il me foutait une claque, c'était impardonnable, quoi. Mais il m'a structuré aussi. Et donc, du coup, aujourd'hui, j'ai cette même discipline vis-à-vis de mon savoir-faire. Enfin, j'ai appris le respect, j'ai appris beaucoup de choses. Enfin, ça, c'est une histoire, mais j'en ai plein, en fait. Parce que j'ai voyagé dans plein d'ateliers, donc que ce soit en Suède ou aux États-Unis, enfin... Voilà, c'est très colorié.
Tu nous mets cartouches parce que la question d'après, c'était de qui on apprend quand on n'a pas de professeur. Mais tu peux peut-être enchaîner sur une ou deux expériences.
Ouais, alors, juste... En fait, du coup, ma réponse à cette question, elle est très courte. On apprend de celui qui en sait plus que nous. C'est vraiment aussi bête que ça. Et dans une équipe, en fait, par exemple, dans le verre soufflé, le samedi, moi, je donne mon atelier aux gens, aux stagiaires, aux apprentis, à tout le monde qui veut souffler, en fait, gratuitement. Et la seule règle, c'est il faut respecter l'ordre du savoir-faire. C'est-à-dire que celui qui a le moins de savoir-faire travaille avec celui qui a un peu plus de savoir-faire et on respecte cet ordre-là. Comme ça, chacun, en fait, prend sa responsabilité vis-à-vis de son savoir-faire et de ce qu'il sait. Voilà. Donc, c'est très bête.
Bah, même question à Sébastien. De qui on apprend quand on n'a pas de professeur? La maroquinerie, c'est pas vraiment ton métier de base. Comment t'as appris? Qu'est-ce que t'as appris?
J'ai observé, il se trouvait que c'était un moment où je travaillais avec Petit H, c'est Hermès, donc j'ai observé leur manière de faire. Et avant, j'avais travaillé avec un cellier qui s'appelle Michel Pochon. J'ai passé des journées entières avec eux, même à mettre la main à la pâte naturellement, c'est ce qui m'a donné envie d'ailleurs. Après, je pense que je suis sur un savoir-faire beaucoup plus simple, enfin, dans ma manière de l'aborder en tout cas. Que du soufflage, même en termes d'outils, d'outillage. Moi, je peux être vraiment mobile, j'ai pas besoin d'aller dans un atelier quasiment. Avec un établi et quelques outils, je peux fabriquer quelque chose. Donc, c'est pas. Enfin, je sais pas si ça répond à ta question.
Si, si, complètement.
Comme j'étais feignant, en fait, j'ai pris volontairement. j'ai fait un petit pas d'écart par rapport au métier.
Ok, ça c'est ta forme d'apprentissage. Et Caroline et Pierre, vous abordez beaucoup de techniques différentes quand vous allez en atelier. J'ai l'impression que chaque nouveau projet, c'est quasiment une nouvelle technique. Alors, vous auriez pu faire le choix, comme Sébastien, de vous concentrer sur un matériau et une technique, d'aller plutôt vers la production, mais j'ai l'impression que vous ennuyez si vous ne changez pas de matière ou de savoir-faire. Par contre, ça ne doit pas être évident, non? Parce que c'est un nouveau défi à chaque fois.
Ouais, mais c'est ça qui est drôle, justement. C'est vraiment, on le fait vraiment pour ça, pour apprendre à chaque fois. C'est vraiment une aide là, un peu, ce projet aussi, c'est que c'est apprendre, quoi. Et alors, comment on apprend, comment on a appris tout ça après, on a deux, trois, ça dépend des produits, mais on a vraiment deux, trois techniques, peut-être un peu plus, qui sont assez complexes. La dinambrie, le repoussage, des choses comme ça, où là, on a. La merci Internet et les tutos vidéo, puisqu'on a beaucoup appris en regardant des vidéos, hein, dans l'imitation toujours, mais alors à travers un écran, en se confrontant, en faisant beaucoup d'erreurs. Il y a vraiment deux niveaux. Il y a le premier niveau qui sont les techniques à maîtriser de mise en forme, qui sont vraiment propres à un métier. On sera jamais, après on ne considère pas comme des artisans, on ne sera jamais, on n'aura jamais ce niveau-là. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment explorer plusieurs. Explorer plusieurs matières. Et puis après, il y a tous les petits détails qu'on apprend qui paraissent idiots au niveau de plein de petites choses, assemblage de bois, qu'avant de vernir le bois, c'est préférable de le mouiller pour relever les fibres. C'est même préférable de le faire plusieurs fois. C'est plein de petites choses qui paraissent complètement idiotes et qu'on apprend ça vraiment sur le tas ou à travers les gens. Et après, on a eu, c'est vrai qu'au début, on était un peu allé voir certaines personnes pour apprendre des choses. On a eu un peu des murs en face de nous, qui n'ont absolument rien voulu nous dire. Et il a vraiment fallu faire ses preuves. Et une fois qu'on a eu fait la pièce, qu'elle tenait debout, là, ça a été des... Alors là, il donnait tout. Et ça c'était génial, quoi. Et du coup, il fallait faire ses preuves. Et c'est normal en même temps. Ça a une valeur, tout ça. Au début, moi, j'étais un peu frustré. Mais maintenant, je le comprends complètement. Et donc voilà, les techniques, on les apprend comme on peut. On va surtout les choisir quand elles sont... Toutes les techniques qu'on utilise, elles sont relativement vieilles au final. Hein. Et c'est vrai que du coup, elles ont besoin de peu de moyens. C'est un peu vers ça qu'on tend. Et c'est vrai qu'après, on va graver du cuivre avec de l'acide, mais c'est des techniques de gravure. Après, voilà, c'est des recherches. C'est beaucoup de recherches. Beaucoup d'essais, beaucoup d'erreurs et beaucoup de recherches. Mais c'est un apprentissage qui est assez qu'on fait seul au final. Enfin, ouais, c'est ça.
Alberto, on voit qu'il y a des approches assez différentes dans l'apprentissage. Il y a du respect du savoir-faire, il y a de l'impertinence, il y a de l'exploration. Et dans votre ouvrage de Master Touch, vous soulignez l'importance du territoire d'origine, de la tradition. Mais comment on fait pour concilier ça avec l'apprentissage du métissage culturel et de l'innovation, qui sont quand même indispensables à nos métiers?
Disons que tous ces aspects, forcément, doivent aller ensemble. Parce qu'évidemment, la valeur du territoire est capitale dans les métiers d'art. Chaque territoire a ce que les Latins appelaient les genus loci. Genus, c'est l'esprit. Loci signifie du lieu. L'esprit du lieu qui joue un rôle essentiel dans l'âme même du produit. Évidemment, si vous fermez la porte du BMW, vous écoutez le clic parfait de la Deutsche Qualität. Parce que, évidemment, ils font des voitures magnifiques. Mais, Grégoire, si vous avez de l'argent, est-ce que vous achèterez une Ferrari réalisée à Düsseldorf? Je pense que non, franchement. Parce que la Ferrari est à Maranello. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas, parce que les prêtres à l'église, ils prédiquent la Ferrari. Parce que le pain, je ne sais pas, c'est le rouge Ferrari. Je ne sais pas pourquoi. Mais les territoires déterminent vraiment l'esprit même de l'objet. Si je dois acheter une pièce d'haute joaillerie, évidemment, si c'est français, c'est parfait, parce que je sais qu'à Paris, autour de Paris, il y a encore cette magnifique tradition qui va avec la recherche, le design, la contemporanéité. Mais par contre, je suis sûr que personne dépenserait des milliers d'euros pour une montre compliquée réalisée en France. Parce que le mot compliqué, c'est Swiss made. Alors là, les territoires deviennent les lieux qui attire les talents, parce que c'est autour du savoir-faire, autour du genius loci, que les talents des jeunes arrivent pour apprendre, pour se confronter avec tout ça. Et c'est justement la découverte de toutes les possibilités que nos territoires offrent qui contribue à cette innovation, à cette hybridation. Évidemment, il y a des pôles forts dans toute l'Europe. Et si je peux me permettre, ça est vraiment lié à notre identité contemporaine de l'Europe. Si vous ouvrez la carte du monde, dites-moi, combien de pays offrent la liberté d'expression qui nous est offerte en Europe? Je vous l'ai dit, très peu. Alors la liberté de se déplacer, la liberté de choisir où on veut apprendre un métier, la liberté de se réinventer une vie différente dans un territoire qui offre des possibilités. Ça, c'est un avantage comparatif exceptionnel qui va dans le sens de l'innovation et de l'hybridation contemporaine dont vous parliez.
Alors, cette mobilité-là, cette liberté de choisir où on pratique, où on s'installe, elle aussi est liée au moment de la vie où on se lance. Moi, ça m'intéresserait de savoir, Jérémy, qu'est-ce qui t'a poussé à voler tes propres ailes, toi? Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, après avoir vu tous ces ateliers, tu t'es dit c'est le moment, il faut que j'ouvre mon atelier, que je vive mon expérience personnelle. Quel a été le déclic?
Le déclic, moi je pense qu'au bout d'un moment, en fait à un moment, la partie créative de l'équation, la créativité, l'esprit de la créativité devenait, enfin elle était trop forte. Je pouvais plus prêter mes mains aux autres en fait. Je pouvais plus, mon savoir-faire ne pouvait plus. Ouais, il fallait que je m'exprime. Voilà, c'est tout. Un jour, c'était plus fort que moi et j'ai décidé de me lancer, quoi.
Ah, t'as vécu ça comme une prise de risque ou c'était une évidence?
j'ai envie de te dire, la prise de risque, c'est depuis tout le temps, quoi. Ouais, après, c'est je sais pas, c'est un peu de la... C'est une passion. Enfin, il n'y a pas cette réflexion-là de risque, en fait.
Tout à l'heure, tu m'expliquais en off que tu avais ton atelier depuis 3 ans, que c'était un vrai engagement personnel, qu'avant, tu louais des ateliers, en fait, pour aller travailler. Là, il y a un énorme changement, quand même. Il y a un moment où ça a été une nécessité ou c'était une opportunité. Qu'est-ce qui a fait que tu es passé de cette relation de nomade à cette relation d'artisan d'art installé?
Bah, en fait, la grosse différence dans mon métier à d'autres métiers d'art, c'est que je travaille le verre soufflé et le verre, il faut le fabriquer. Ça, je peux pas acheter la matière première, je peux pas aller dans un magasin et acheter du verre. Il faut que j'ai un four et il faut que je fabrique le verre. Donc, il me faut un atelier pour pouvoir avoir du verre, pour pouvoir souffler. Donc, il me faut un atelier, en fait. Il n'y a pas vraiment de... En fait, j'ai pas le choix. J'ai pas vraiment eu ce choix. Tu vois, je peux pas aller chez Weber et acheter 4 bâtons de verre et souffler un truc. Il faut que j'achète un mélange de sable très spécial, des couleurs compatibles avec ce sable très spécial. Il faut... Enfin, c'est tout un... Pour fabriquer... Ouais, tu vois, je sais pas, je fonds 1 tonne de sable par mois et j'ai 700 kilos de verre et avec ces 700 kilos de verre, je fais... Mais en fait, oui, aujourd'hui, je suis plus du tout nomade, je suis chef d'entreprise, j'ai 6 employés. Mais c'est très naturel parce que j'ai toujours travaillé dans des ateliers. C'est très pyramidal, en fait. On est chef d'équipe et on a le savoir-faire et on mène un peu la danse, quoi. Mais aujourd'hui, grâce à cet atelier, j'ai un four et j'ai du verre à volonté, quoi. C'est génial. Enfin, moi, j'ai travaillé dans des ateliers où je pouvais travailler 6 mois, 8 mois, 9 mois et pas toucher un bout de verre. J'avais juste la chance d'être là. Donc là, j'ai une idée mardi soir, mercredi matin. Si c'est du verre chaud dans le four, c'est parti, quoi.
Et investir dans un atelier, ça a été un saut dans le vide ou
Mais c'est difficile à expliquer, mais c'est toujours un saut dans le vide depuis le début, en fait. Dès que j'ai 3 copeilles d'économie, je les mets dans un voyage à Murano. J'ai toujours fait ça. L'équation, en fait, quand j'ai commencé il y a 10 ans, mon fonds de roulement, c'était 300 euros par mois. Aujourd'hui, c'est 50 000. Mais c'est la même pression, en fait. Non, mais c'est toujours un saut dans le pain. Je veux dire, avant, c'était à 300 euros près, je perdais tout. Et maintenant, c'est à 50 000 euros près, je perds tout. Mais c'est la même chose. Enfin, je sais pas, j'y pense pas. Après, je suis plus sur mes acquis. Enfin, j'ai un métier, j'ai un savoir-faire qui c'est un langage que j'ai appris, que je peux porter avec moi toute ma vie. C'est pas mon atelier qui le définit. Je peux perdre mon atelier et puis j'aurai toujours ce savoir-faire à ma disposition. Donc c'est, je sais pas. Je trouve que déjà arriver à avoir un atelier à Paris, c'est un rêve accompli, quoi. Même si le truc se casse la gueule, c'est pas. Enfin bref, donc il y a. Je veux dire, ça paraît un peu fou, mais bon, c'est... Enfin, pourquoi pas, quoi.
Marc, beaucoup de jeunes, quand ils finissent leur tour de France, s'installent et ils ont la même démarche que Jérémy, c'est-à-dire qu'ils montent leur boîte, ils font un emprunt, 100, 200 000 euros, parfois plus. Ils sont souvent très jeunes et ils ont une confiance dans l'avenir qui, moi, m'a beaucoup impressionné, étant moi-même sorti d'école de design, même étant endetté pour acheter un ordinateur portable. Je pensais que c'était déjà énorme. Donc, qu'est-ce qui fait que les jeunes ont cette confiance-là chez les compagnons du devoir, et comme Jérémy, enfin.
En fait, c'est vrai que les métiers, nos métiers sont des prises de risque permanentes, je pense. On forme des passionnés, hein, dans des métiers passionnants. Et c'est vrai que se remettre en cause régulièrement, aborder des problématiques, des chantiers différents, répondre à des clients différents, à des prescripteurs différents, dans des conditions différentes, ça reste quand même extrêmement, prometteur pour l'avenir, puisque une fois qu'on a passé toutes ces étapes-là, on est capable de vouloir entreprendre. Et entreprendre, c'est aussi se donner les moyens d'apporter sa valeur ajoutée. C'est aussi les moyens d'aborder le métier d'une façon encore plus globale, en assemblant les compétences, puisqu'un métier, c'est évidemment beaucoup de savoir-faire, mais c'est aussi avoir un bon niveau de communication, mais aussi l'économat est aussi important, puisqu'un métier n'a de sens que s'il a une vraie valeur économique. Et c'est aussi aborder un ensemble de compétences qui élargit, selon moi, et qui donne de l'avenir et de la perspective à cet homme de métier. Ça permet également de pouvoir développer l'employabilité, c'est-à-dire éventuellement de pouvoir rendre ce que nous-mêmes nous avons appris en ayant la confiance des autres, à savoir prendre un apprenti, ce qui est le plus naturel au début, parce que c'est très riche, on apprend beaucoup d'un autre, mais on apprend aussi énormément à donner. Enfin, je crois que c'est même assez essentiel. Et je pense que effectivement, voilà l'alchimie qui permet d'entreprendre. Et on reste toujours du métier. On dit souvent que le métier forge énormément l'esprit. On peut s'éloigner du métier, apprendre des postes à responsabilité dans différentes autres branches, éventuellement s'engager dans l'enseignement, mais on est toujours du métier. On aborde toujours les choses de la même façon. On reconnaît un menuisier toute sa vie, comme on reconnaît un maçon, comme on reconnaît un charpentier, puisqu'il a été forgé vraiment à un ADN très particulier qui fait qu'on est toujours du métier. Voilà.
Et justement, à propos des anciens, j'ai cru comprendre que dans le processus de lancement des plus jeunes, il y avait beaucoup d'entraide. Je sais qu'il y a, je prends l'exemple des jeunes menuisiers qui s'installent, qui vont prendre un petit chantier pour une boîte qui est un peu plus grosse. Il y a un réseau d'entraide qui est quand même très présent chez les compagnons du devoir. C'est une base, justement. Est-ce que ça fait partie de cette confiance que les jeunes ont dans l'avenir, savoir qu'ils peuvent se reposer sur les anciens?
Oui, alors là, c'est la culture du réseau. Et effectivement, ce qui est riche, en particulier chez les compagnons, c'est qu'il ne peut pas nous arriver grand-chose. On peut avoir un problème technique à Nice, à New York ou à Londres. On aura toujours, effectivement, grâce à ce réseau de voyages qu'on s'est fait, grâce à l'expérience, des partenaires qui pourront nous aider. Et effectivement, ça, c'est très confortable de bénéficier d'un réseau. Je pense que la réussite, on ne réussit jamais seul, d'une part. On réussit avec les autres et grâce aux autres. J'aime bien cette expression du proverbe africain qui dit « tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin ». Je pense qu'il a beaucoup de sens pour nos métiers. Sans réseau, on n'est rien. Et puis, effectivement, des entreprises bien souvent installées ont besoin de sous-traitants, de co-traitants, et là, effectivement, chaque typologie d'entreprise peut correspondre à des projets, à des marchés.
Gérard, pour ta part, tu nous as expliqué tout à l'heure que ton père t'avait à la fois accompagné pendant 6 mois, mais qu'après, il t'avait laissé, à part la correction hebdomadaire, voler tes propres ailes. Comment tu te situes par rapport au témoignage qu'on a eu en termes de lancement, comment s'est passé le lancement de ton atelier, enfin le lancement à la reprise, ou comment tu définirais ce passage en fait de l'élève au maître?
Écoute, moi j'ai été les chercher, mes compagnons. D'abord, j'ai été très rapidement, j'ai passé le concours de meilleur ouvrier de France. Et donc ça m'a ouvert plein d'ateliers et plein d'amis. Et donc cette fraternité, je l'ai trouvée et à l'écoute des uns. Alors bon, beaucoup sont fermés, d'autres très ouverts. Donc tu vas aller chercher ce dont tu as besoin. Mais je pense que ce compagnonnage, je l'ai fait parmi. Mais tu sais, t'as pas forcément besoin. Je pense à un de nos maîtres historiques, un gars comme. Comme Durer, qu'on connaît bien, bon, quand on est graveur, c'est toujours une référence. Il a eu un maître qui s'appelait Martin Schongauer, donc là on se situe, on est au 16e, 15e, 16e siècle, et c'est un maître qu'il n'a jamais rencontré. Il l'a suivi par ses gravures qui circulaient en Europe, il ne l'a jamais rencontré,
et il a fait progresser la technique de gravure grâce aux épreuves qu'il voyait du maître. C'est souvent des gravures qu'avaient déjà 5 ans, 10 ans. Et puis, ils se sont filés rendez-vous un jour à Colmar. Donc, il était prévu, mais à l'époque, bon, on ne circulait pas comme maintenant. Et quand Dürer est arrivé pour rencontrer son maître, il était mort depuis un mois, tu vois. Il s'était dit, on se verra au printemps à Colmar en 1492, je ne sais plus exactement les dates. Et là, il est arrivé, le maître était mort. Mais il y a eu cette transmission quand même, ils ne se sont jamais vus. Et tu parlais de voler par les yeux, cette transmission, c'est ça. Donc là, l'amitié, bah, oui, on peut parler, je pense, d'amitié, de réseau. Moi, j'aurais rêvé d'être compagnon et d'aller... bon, hélas, on n'a pas la structure dans ce petit monde de la gravure, on est très très peu, mais changer fréquemment d'atelier. En revanche, j'ai beaucoup progressé dans mon propre métier grâce à des compagnons et des meilleurs ouvriers de France qui travaillent pour l'aérospatiale, par exemple, qui m'ont dit tu peux utiliser tel outil, ce sera parfait pour toi. Donc, tout doucement, tu te sens moins seul, surtout qu'à un moment, tu te sens seul, parce que tu me parlais de correction hebdomadaire, puis un jour, tu l'as plus ton maître. Donc quand tu es corrigé pendant 20 ans, tous les week-ends, un jour arrive le week-end où tu es tout seul, donc même à 40 ans, tu as besoin d'un maître, tu as besoin d'une référence. 60 aussi, bon tu as les bouquins, tu as tout ce que tu veux, mais tu as besoin d'une référence. Après tu vas le trouver ailleurs, moi j'en ai trouvé un ailleurs qui était luthier, lui, bon, présidé la CEMA pendant très longtemps, c'était un luthier, mais on était sur la même longueur d'onde en ce qui concerne l'engagement, la diffusion du savoir-faire, et voilà. Quand j'ai plus une maître, je suis devenu enseignant. Tu vois, tu as des compensations qui se font très bien. Et là, la transmission, voilà. Mais j'avais pris une autre veste, quoi.
Bonjour à tous, je suis Maroussia, je suis compagnon tapissier, je travaille aujourd'hui chez les compagnons. Voilà. J'aurais aimé avoir votre point de vue, vous parliez de transmission à distance. C'est assez intéressant. Aujourd'hui, les centres de formation et les compagnons s'y mettent aussi, peut-être avec un peu de retard, ou je ne sais pas, mais en tout cas, ça va venir très vite. On parle de FOD, c'est la formation ouverte à distance. Donc, vous parliez juste avant de tutos ou alors le fait qu'il n'y ait que deux ouvrages sur le verre. Aujourd'hui, le verre soufflé, qu'on n'arrive pas à l'écrire. Est-ce que pour vous, vous le voyez comme une opportunité ou une crainte, en fait, pour l'apprentissage via ces tutos, via ces formations ouvertes à distance? Je ne sais pas si c'est très clair.
Est-ce que la formation ou la transmission à distance peut être un...
Oui, par exemple...
Mettre en danger la pérennité des savoir-faire, c'est ça?
Oui. Bon, c'est un peu de la rhétorique. C'est pas ce que je pense, hein, mais j'aurais aimé avoir votre point de vue à vous tous, suivant ce que vous avez suivi, comme selon si vous avez été disciple ou autodidacte.
Voilà. Ouais, je pense, ce qui est important, c'est qu'il y ait un retour. Là, je parlais de, c'était pas innocent, de Dürer et de Schoenbauer. Ils se sont jamais vus, ils ont échangé par courrier et par l'image. Et quand on connaît l'œuvre de Dürer, on sait que ça a très bien marché. Donc je pense pas que ça soit un problème. Après, évidemment, ils se sont donné rendez-vous, c'est parce qu'ils avaient besoin un jour de passer j'allais dire au charnel, mais passer à un autre type de relation. Ça s'est pas fait. D'ailleurs, Dürer était très, très malheureux et il s'est dépouillé tout doucement. Mais non, pour moi, c'est pas, ça me paraît pas être un handicap. Hein. Je sais pas ce que tu en penses de la distance.
Non, c'est super. Enfin, non, mais je veux dire, c'est...
avant, je devais apprendre une technique, c'était le Morini, et j'ai dû aller à Murano, et c'était un calvaire, et puis j'ai dû avoir trois boulots pour machin. Aujourd'hui, je peux taper sur Google, Murine, machin, et puis j'ai une vidéo, c'est une tuto, c'est génial. Donc il y a un accès plus... Enfin, quelque part, c'est bien. Enfin, ce qui est génial, c'est qu'on a accès à cette information qui permet de pérenniser cette information. Parce que, faut pas se mentir, enfin, il y a des métiers qui meurent, quoi. Donc, qu'on ait des vidéos, des enregistrements et un partage dans le monde entier, c'est top. Comme ça, ça disparaît pas, en fait. Donc, c'est génial.
Oui, je suis complètement d'accord. C'est vrai que, non, mais... Bah oui, nous, c'est vrai que, une fois de plus, on... Ouais, complètement... On apprend tellement comme ça à distance qu'on ne pourrait pas faire autrement. Ça ne fera pas mourir les métiers, puisque de toute façon, il faudra toujours le mec au bout de l'ordinateur pour faire la vidéo. S'il n'était pas là, on ne pourrait pas apprendre de lui. Maintenant, c'est vrai que l'atelier, on ne ressentira de toute façon jamais la matière à travers une vidéo. Ça, on apprendra. Je sais que pour les peu de gens qui ont pu nous transmettre des choses... C'est toujours plus rapide. Il y a, je sais pas, vivre l'atelier avec ses odeurs et sentir à quel point. Je me rappellerai toujours la première fois que j'ai fait du repoussage sur un petit tour à bois et que je voyais les vidéos, ça m'avait l'air tout simple. Et le soir même, j'avais un bleu comme ça. Parce qu'il fallait se coucher sur la barre pour pouvoir repousser le métal. La vidéo, ça ne me l'avait pas dit, quoi. Alors que j'aurais vu le gars en vrai vraiment se coucher sur sa barre, j'aurais tout de suite compris. Mais là, ça semblait tellement souple, on avait l'impression qu'il faisait ça d'une facilité. Et j'avais fait une barre longue comme ça, au bout d'une heure, je l'avais rallongée d'un mètre pour avoir un bras de levier de dingue, j'avais vissé le tour sur le... Enfin, tout était vissé au sol pour tellement ça bougeait, quoi. Donc, donc ça, il fallait... J'aurais vécu pour de vrai, je pense que... J'aurais pris les choses différemment sur le début. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a une, du coup, maintenant, il y a une simplicité. On voit les choses. Il y a un accès à plein de savoir-faire. Et nous, c'est vrai que c'est ce qui nous intéresse. Pouvoir un peu toucher toutes ces matières. Du coup, là, d'un seul coup, elles sont à disposition. Quoi. Enfin, les savoir-faire, on peut les voir en vidéo. Donc, ça, c'est pas mal.
Puisqu'on parle de pratique et de théorie, Alberto, je me tourne vers vous. Dans The Master Touch, vous soulignez que c'est la pratique qui fait l'artisan d'art, bien plus que la formation elle-même. Quel apprentissage se joue dans cet acte quotidien de pratique? Qu'est-ce qui fait la différence? On a eu plusieurs témoignages vibrants sur cet apprentissage dans la chair. Vous le définiriez comment?
Alors, c'est clair que, effectivement, à chaque fois que nous portons l'un de nos jeunes qui doit commencer son apprentissage, un maître pour le présenter, pour dire voilà, pour 6 mois, vous allez travailler ensemble. On est arrivé à 250, bon, j'ai perdu les comptes. À chaque fois, c'est la même histoire. Ah, vous sortez des écoles, vous n'avez rien appris, rien du tout. Oui, ok, c'est vrai. Donc, c'est clair que le métier, on l'apprend en atelier, à travers une transmission, à travers tous ces échanges. Mais en même temps, laissez-moi vous dire une chose que je répète vraiment très souvent, mais dans laquelle je crois vraiment beaucoup. Quand on parle de maître d'art, quand on parle de métier d'art, on ne parle pas seulement d'une action qui se répète toujours la même dans les tombes. Les maîtres d'art, les grands artisans, ici on en a, sont pas des insectes. Parce que des mains qui font comme ça, vous en trouvez partout dans le monde, qui vous n'écoutent rien du tout. Alors, ce que nous cherchons, c'est autre chose. Si moi, je porte un jeune apprenti chez un grand maître tailleur, chez Caraceni, ou chez Brioni, c'est parce que je sais que ce jeune garçon ou cette jeune fille mettra sa main sur un chef d'État, sur un souverain, sur le président de la République. Alors de quoi on parle? Nous parlons d'une personne qui ne doit pas seulement être un maître d'art, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable, évidemment, d'avoir une grande détresse avec les mains et donc de bien réaliser. Mais quelqu'un aussi qui a la culture de comprendre les milieux, qui arrive à se présenter comme le Benvenuto Cellini, l'auteur de la très belle salière qui est l'emblème de la Fondazione Coloni, qui au VIe siècle, il était un orfèvre, un sculpteur, mais était aussi un homme de marketing, qui a vendu son pièce merveilleuse au roi de France, François Ier. Alors voilà, c'est clair que le métier, on l'apprend à l'atelier. Mais c'est vrai aussi que l'éducation est fondamentale. Savoir parler une langue différente que son propre idiome, comprendre l'histoire de l'art, des arts appliqués, avoir la curiosité. Le président Abraham Lincoln disait, si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance.
Merci. Alors à propos d'éducation, Marc, chez les compagnons, on a ici une forme d'apprentissage qui met vraiment l'accent sur la vie en entreprise, hein, 80% du temps quasiment, voire plus. On a même une nouvelle formation qui se met en place, l'API, donc qui augmente encore le temps d'apprentissage en entreprise. Il y a quand même des allers-retours, évidemment, entre la théorie et la pratique, mais c'est quoi la valeur ajoutée de cette pédagogie de l'entreprise, en fait, dans l'entreprise ?
Oui, le métier s'apprend en effet dans l'entreprise. Pour des raisons évidentes, le métier, l'entreprise est elle-même complètement en prise directe avec, on parlait d'économie tout à l'heure, mais en prise directe avec la réalité du métier. Aujourd'hui, même les plus beaux centres de formation ne pourraient pas être autant à la pointe, puisque dans l'entreprise, c'est là qu'on répond à une commande, c'est là qu'on a les machines adaptées à cette même commande, et l'école ou le support, le centre de formation, ne peut être qu'un support. Donc les centres de formation sont, selon moi, des endroits où on apprend les bases de son métier. Mais la plupart du temps, le métier s'apprend en l'exerçant. Hein. On l'a dit à plusieurs reprises. En plus, on travaille souvent la matière. Et cette matière, avec cette matière, on triche pas. Et donc, on a besoin d'expérimenter, de travailler cette matière pour pouvoir arriver à acquérir des compétences. Le centre de formation ne peut être qu'un complément. Et c'est vrai que 90%, 95% du métier s'apprend dans l'entreprise. 5%, c'est vraiment le petit complément qui permet d'aller plus loin. Ça permet également de rentrer dans des cahiers des charges qui correspondent aussi à un diplôme, hein, puisque c'est ça aussi. Mais les compétences, c'est là où je veux en venir, ça s'apprend vraiment dans l'entreprise.
Est-ce qu'on apprend autre chose que le métier en entreprise ?
Oui, ce qu'on dit souvent à nos jeunes, c'est que effectivement le savoir-être, le savoir-vivre, les codes sociaux sont très importants. Donc, on apprend beaucoup en observant, on apprend beaucoup aussi en arrivant à 5h du matin, ça aide, on est tous à 5h05 ou 5h, ça aide évidemment, mais c'est aussi respecter un environnement, respecter des codes, une réglementation, mettre personne en danger, et ça s'apprend. Alors, évidemment, il y a une phase d'apprentissage, mais en tout cas, c'est là où on est en prise directe, et c'est important.
Sébastien, toi, c'est un apprentissage récent, l'entreprise, et puis aussi la répétition d'un geste. Quand on est designer, ça arrive assez peu souvent, finalement, de répéter le même geste en série, comme tu le fais pour tes productions de sacs. Qu'est-ce que tu apprends de ça ? Est-ce que ça te fait réfléchir sur ton métier, sur ta posture de designer ? Ou de maker, ou d'artiste ?
C'est vrai que pour moi, c'est très important au départ de faire des petites séries. Et de pas. En fait, je travaille avec des emporte-pièces. Donc, c'est ce qui m'a fait aussi m'installer à Paris. C'est que le dernier fabricant d'emporte-pièces, c'est les emporte-pièces du Marais. Et que je tenais, en fait, particulièrement au fait de montrer que je pouvais, sans être un maître artisan maroquinier, proposer des objets avec un cuir de qualité, en contournant un petit peu le métier, comme on en a parlé maintes fois. Et du coup, en abaissant un petit peu le prix de la façon. Mais pour autant, je ne fais pas directement un emporte-pièce, puisque c'est un investissement. Et au début, je me suis aperçu que je faisais des erreurs. Donc, je commence par faire les premières séries à la main. Et c'est vrai que dans la série, dans la répétition et dans l'usage, je finis par découvrir naturellement des améliorations que je peux amener au design. Donc, il y a une phase assez importante de design prototypage en direct.
Et vous, Caroline et Pierre, vous avez une pratique assez particulière, c'est presque un rituel quand vous vous mettez en mode production. Je ne veux pas dévoiler ce rituel, mais est-ce que vous pourriez nous en parler et puis nous dire ce qui vous a poussé à aller vous retirer dans les hautes montagnes pour régler ce différend que vous avez avec la matière et l'artisanat?
Bon, en fait, la vraie histoire n'est pas si, si poétique. Donc nous, on travaille à Paris. On a pris un bureau enfin depuis 6 mois maintenant, mais on a longtemps travaillé dans nos appartements respectifs. Et en fait, l'atelier où on fabrique nos pièces se trouve en Haute-Savoie, à Cuzy, dans un petit village d'où Pierre est natif, puisque l'atelier se situe dans le garage de la maison des parents de Pierre. Donc, pourquoi ce choix ? En fait, c'est très simple. L'atelier était déjà assez bien fourni, puisque, comme le disait Pierre tout à l'heure, sa famille avait pas mal de machines, lui-même en avait acheté assez régulièrement. Donc, les premières fois où on s'est dit, allez, on se lance là-dedans, on l'a fait aussi parce qu'on savait qu'on avait cet atelier en support et qu'on n'aurait pas besoin de le créer de A à Z. Donc, c'était aussi une solution de facilité. Avouons-le. Et en fait, on continue à fabriquer là-bas pour des questions que nous connaissons tous, habitants en région parisienne. C'est que pour l'instant, imaginer avoir une surface d'atelier à Paris, ce serait pour nous financièrement beaucoup trop lourd. Donc on préfère cette solution de s'expatrier là-bas pour fabriquer parce que voilà, c'est beaucoup plus simple. Mais la distance fait qu'on est obligé d'y partir quand même plusieurs jours d'affilée, sinon ça devient vraiment pas rentable de produire les pièces. Donc quand on y va, en général on y va une semaine, 10 jours. Et effectivement, c'est vraiment un voyage parce que quand on est là-bas, on ne fait que ça, de 8h du matin à 10h du soir. On a la chance d'être bien entouré par les parents de Pierre, donc on nous appelle à midi, la table est mise et on se met à table, on mange, on repart directement, enfin un peu comme des ados qui joueraient aux jeux vidéo, mais il y a un peu de ça, mais effectivement quand on est là-bas, on compte pas nos heures, les journées sont souvent à rallonge parce que on essaye de rentabiliser le temps qu'on passe là-bas pour fabriquer un maximum de choses. Donc on se charge souvent pas mal le planning. Et comme on passe d'un matériau à un autre, d'une technique à une autre dans une même journée, il faut qu'on... Le planning est assez organisé pour qu'on puisse respecter les temps de séchage, les choses et d'autres, et qu'on, pendant que ça sèche, on fasse une autre action. Enfin, voilà, donc c'est assez timé, assez minuté. Mais c'est plutôt agréable parce qu'on se coupe un peu de nos ordinateurs et de la façon dont on travaille au studio habituellement. Donc voilà, c'est une sorte de parenthèse, de pause qui est plutôt agréable. Où on est vraiment dans une autre dimension presque.
Et vous y consacrez combien de temps ?
Alors ça, tout dépend on fabrique à la commande en fait, donc ça nous permet d'éviter de devoir faire trop de stock, mais néanmoins comme on participe assez régulièrement à des expositions ou des événements, il faut quand même produire un certain nombre de pièces pour les présenter. Et ça peut dépendre de la fréquence des événements, mais l'année dernière on a participé à 3 ou 4 expositions où on en a monté seul aussi une ou deux. On y est quasiment allé une semaine par mois pendant au moins 6 mois, et après d'autres périodes un peu plus étalées, donc c'est assez variable, mais on y va quand même tous les 2 mois à peu près en général. Soit pour faire des pièces qui nous ont été commandées, parce qu'on annonce en général un délai de fabrication à nos clients de 8 à 10 semaines, histoire de se laisser un peu le temps de prendre des billets de train, d'organiser notre planning en fonction des besoins. Mais on ne peut pas laisser les gens attendre trop longtemps, donc il faut quand même y aller régulièrement. Et puis quand on n'y va pas pour honorer une commande, on y va pour faire un prototype, essayer une technique, réfléchir à un nouveau projet. Donc voilà, on alterne un peu comme ça les deux casquettes.
Et comment vous décidez de faire rentrer un objet dans la collection By Hands ? Est-ce que c'est parce que vous ne pouvez pas le faire autrement, ou par choix, ou...
Alors, comme disait Pierre tout à l'heure, au départ, c'est vrai que ces objets sont venus d'objets qu'on avait déjà dessinés, mais qui n'avaient pas forcément trouvé leur place dans le circuit de l'édition traditionnelle, parce que justement, ils faisaient appel à beaucoup de savoir-faire, ou plusieurs techniques, plusieurs matériaux, et c'est quand même... En général, dans l'édition, assez difficile de réussir à faire réaliser des pièces qui demandent à passer entre plusieurs mains. Je parle dans l'édition de série, pas évidemment dans des éditions de galeries et autres, c'est tout à fait différent. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, ben, plutôt que d'avoir besoin d'aller voir un carcassier d'abat-jour, quelqu'un qui va nous faire le montage électrique, un menuisier et je ne sais pas quel autre métier, ben, en fait, tout ça, on peut le faire nous-mêmes. Et c'est comme ça qu'on a réalisé des objets qui étaient peut-être un peu trop compliqués pour être réalisés dans le circuit habituel. Et aujourd'hui, évidemment, on dessine des nouvelles pièces, mais là, il y a un côté très immédiat. Mais je pense que là, pour le coup, tous les artisans qui sont ici ont le même plaisir, c'est que la temporalité est très agréable. C'est-à-dire que le mardi, on dessine une lampe dans notre carnet, si on n'est pas loin de l'atelier, le mardi, si on se dit qu'elle vaut la peine d'être testée, on peut déjà commencer à la faire. Et si c'est probant, si ça fonctionne, quelques semaines plus tard, on peut imaginer la commercialiser. Et en tout cas, nous, par rapport aux temporalités du design habituel, où parfois il faut un an, deux ans, trois ans avant qu'un produit qu'on a dessiné soit mis en vente, là, c'est très immédiat. Alors, tous les objets qu'on dessine ne valent pas la peine d'être fabriqués et vendus. Certaines fois, il y a des projets qui s'oublient un peu naturellement. Mais quand on se rend compte qu'on tient à une pièce, voilà, ça peut être très rapide. Les nouveaux objets, les nouveaux objets, on les dessine et... parce qu'à un moment, cette technique nous semble intéressante à développer. Et voilà, on se dit que ça vaut le coup de la faire rentrer dans la collection. Mais c'est assez intuitif. On n'a pas vraiment de plan de collection ou de choses très réfléchies. C'est un peu à l'envie, finalement.
Gérard, à l'opposé, toi, tu t'es concentré sur un savoir-faire que tu as exploré de manière très, très experte. Sur une recherche de la maîtrise du geste qui s'approche de la perfection, je ne sais pas, qui est probablement très proche de la perfection. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de routine dans cette répétition du geste pour arriver à la perfection, et comment on fait pour détourner cette routine, pour éviter de s'y perdre?
C'est quand tu oublies que tu sais. Une fois que tu as oublié comment il fallait faire, et que tu sais, tout simplement. Il y a un moment tout d'un coup, c'est pas de la routine, c'est pas que tu réfléchis plus, t'es en relation directe avec ce que tu fais. T'as oublié tout ce que t'as tout emmagasiné, et ça fait partie de toi, si tu veux. Donc cette routine, tu peux dire que c'est de l'automatisme, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Je pense que c'est et puis tu deviens maître, employant ces mots-là, je pense que tu deviens maître quand tu as complètement assimilé, digéré tout ce qu'on t'a appris. Alors, c'est pas pour ça que tu n'apprends plus, hein, mais et que tu penses plus à est-ce que j'ai bien fait. Moi, je fais longtemps que je me pose plus cette question, si c'est bien ou pas bien, dans la technique, j'entends, hein. Je parle pas du résultat esthétique. Je pense que c'est là. Donc non, cette notion de routine, pas du tout. Et Dieu sait que dans le métier que j'ai exercé dans les années qu'a repris Sarah, qui est là, le geste est important, parce que dans un centimètre carré, on doit raconter une histoire millénaire, avec des éléments, et nous, dans un millimètre, on met plein de choses. Alors ce qui est frustrant, c'est que finalement, moi, un jour, je me dis, ça fait 40 ans que tu graves des trucs et il n'y a que toi qui vois ce que tu as fait. Tout le reste, c'est de la confiance. Donc c'est pour ça que j'ai changé d'échelle. On y viendra peut-être tout à l'heure pour partager, si tu veux.
Jérémy, pour ta part, la répétition du geste et également la maîtrise de la perfection, en tout cas de faire un seul avec la matière, c'est extrêmement important. Comment aujourd'hui tu vis ton expérimentation? On parlait de se construire une discipline, mais au-delà de ça, comment est-ce que tu développes tes expérimentations et ta créativité à travers ce métier ce savoir-faire qui est très très exigeant techniquement?
Alors ce qui vient d'être dit, le
ma relation entre, enfin, avec la créativité, c'est un langage. Ce langage, c'est un savoir-faire, c'est la technique. Et pour que le langage devienne assez fluide, pour pouvoir m'exprimer ou s'exprimer, bah, il faut répéter le geste des dizaines de milliers de fois pour l'oublier. Après, je pense qu'il y a un petit piège dans cette équation parce que j'ai rencontré pas mal de gens sur mon parcours qui se sont détachés de leur, comment on va dire, du fait qu'ils n'allaient jamais être très techniques, parce que c'est pas aussi, enfin il y a des gens qui n'y arrivent pas, et qui l'ont transformé en créativité. Donc je pense qu'il ne faut pas s'emprisonner dans la technique non plus. Après, moi j'ai fait partie des malades qui adoraient répéter le même geste 17 000 fois pendant des années. Mais bon, c'est aussi un certain type de personne, je pense. Enfin, faut être un peu dans l'obsession. Et après, la question, c'était comment est-ce que je développe des nouvelles pièces, c'est ça?
Comment tu développes ta créativité? Comment tu nourris en fait cette créativité à travers cette technique qui est très très exigeante?
Bah, le fil conducteur, c'est le savoir-faire. Donc, je pense que c'est comme dans presque tout métier créatif, on part d'une impulsion, d'une envie, et à travers le, enfin dans le chemin, sur le chemin vers cette impulsion, cette image qu'on a, bah, on est dans la matière, on est dans le savoir-faire, et donc on découvre d'autres choses qui nourrissent et qui nous font prendre à droite, à gauche. Donc en fait, la créativité en fait est devient vraiment intemporel et on est tout le temps dedans. Enfin, moi, si vous venez à l'atelier, je sais pas, je dois avoir 170 projets en cours en même temps. Mais parce qu'il y en a, je commence, j'arrête parce que je découvre un truc, donc je passe à autre chose. Je découvre une technique ou je découvre un truc que je sais faire, que je savais pas que je savais faire. Enfin, donc ça part un peu toujours dans tous les sens et il y a une espèce de, enfin voilà, ça avance comme ça. Après, on rentre aussi dans l'ordre de la confiance. Il faut avoir une certaine confiance en soi pour montrer, enfin, aller dans des directions, montrer ce qu'on fait. Et bon, enfin, on est dans l'ordre de la créativité. Mais en tout cas, pour les métiers d'art, enfin, les artisans, l'artisanat, pour moi, la relation technique-créativité, c'est quelque chose de très, très particulier qui est irremplaçable. Personne d'autre connaît ça, en fait. On peut imaginer une pièce et la dessiner. Ça prend 5 minutes. Moi, j'ai des dessins que j'ai faits il y a 15 ans que j'ai pas encore soufflé parce que j'ai pas eu le temps, j'ai pas encore eu le. Donc, ma relation espace-temps, et d'ailleurs, c'est ce que vous disiez un peu. Enfin, on a une relation avec la créativité qui est totalement différente. Moi, quand j'arrive à la première fois que j'ai soufflé un cylindre droit, c'était 5 ans de maîtrise, un cylindre, hein, un truc comme ça, droit à main levée, c'était un des plus beaux jours de ma vie, quoi. Mais bon, c'est un peu d'obsession et blablabla. Mais voilà, enfin bref. Pour moi, il y a vraiment deux métiers d'art. Métiers d'art. Enfin, il y a ces deux choses en parallèle qui existent et c'est une conversation entre les deux qui est éternelle.
Et sur un savoir-faire aussi exigeant que le tien, est-ce qu'on est fidèle au savoir-faire ou est-ce que la transgression à sa part intervient dans le métier?
Je l'ai aimé cette question.
Attention, les notes.
Attends, la transgression. Ah oui, alors transgression. Action de transgresser. Une loi, un ordre, un interdit. Ça, c'est la définition Larousse. Et qu'est-ce que c'est transgresser? Ne pas obéir à un ordre, une loi, ne pas les respecter, enfreindre, violer. J'ai fait aucune de ces choses-là. Je n'ai rien transgressé.
Ce monsieur est innocent.
Je suis totalement innocent. Non, non, vraiment, je ne sais pas trop ce que tu dis, en fait. Dans transgresser, je ne comprends pas.
Mais je vais te reposer la question différemment. Est-ce que quand on est dans la pratique d'un métier qui a des règles quand même très, très établies pour arriver à un résultat, tu parlais de souffler un tube de droit, il n'y a pas 10 000 manières de le faire, il y a une manière de le faire, et tu as mis, tu disais, 5 ans à y arriver. Est-ce qu'à un moment, on se libère de ce carcan-là pour se dire, mais en fait... je vais le faire différemment, ou je ne vais pas respecter les paliers de refroidissement, ou je vais faire autrement. À quel moment on se libère de ce carcan-là? Est-ce que c'est nécessaire ou pas?
Les règles, c'est un piège. Enfin, je veux dire, la réalité de la matière, le geste, la matière, on est dedans. Je vais faire je vais souffler un cylindre droit. Je suis obligé de passer par un savoir-faire, une matière, un respect, un apprentissage et une répétition de gestes 10 000 fois. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'il ne faut pas se laisser emprisonner dans ce geste. C'est ce qui suffoque, je pense, aussi. C'est pour beaucoup, voilà, beaucoup de gens n'ont pas accès à cette répétition. Je connais une souffleuse de verre qui n'a jamais su souffler une bulle droite de sa vie. D'ailleurs, elle n'a jamais su souffler une bulle. Et un jour, elle s'est réveillée, elle a commencé à peindre avec le verre chaud, à couler le verre chaud. Elle en avait marre, en fait, et elle avait deux mains gauches. Les ateliers, elle n'y arrivait pas, tout le monde se foutait de sa gueule. Et un jour, elle sait cueillir, elle sait faire un cueillage. Bon, bah, elle va cueillir du verre. Et elle a commencé à couler ça sur des... Et elle est devenue, du jour au lendemain, mondialement connue. Elle vit de son travail. Donc, faut pas être piégé dans le truc du geste. Enfin, c'est un choix, un moment, faut prendre beaucoup de distance vis-à-vis de ça. Mais évidemment, il y a un respect, tout ça, ça va avec, parce que sinon ça n'existerait pas.
Je pense que Pierre et Caroline, justement, d'avoir une certaine liberté par rapport aux règles.
Nous, c'est vrai qu'on avait la grande chance de toutes ces règles d'art de ne pas les connaître. Donc, on est allé dedans comme on pouvait. Mais nous, c'est vrai que du coup, on a cette liberté, mais après, on a peut-être une pratique différente parce que nous, on essaye de se coller à un dessin. On va toujours essayer d'apporter une idée. Il n'y a que maintenant où, effectivement, à force de travailler, à force de faire des erreurs ou des choses comme ça, il y a d'autres choses qui viennent plus de la matière. Même si les dessins venaient avant toujours de la matière, on les imaginait dans cette matière. Maintenant, c'est à force de travailler la matière qu'elle va nous inspirer d'autres choses sur à force de la travailler en se disant, c'est intéressant, c'est pas si compliqué à faire et tout. Maintenant, sur les règles de l'art, effectivement, nous, on les connaissait pas, donc on est allé dedans. Maintenant, elle nous rattrape. Hein. Attention, c'est que quand on veut y aller, une matière, ça se respecte. Quand on veut travailler du cuivre trop finement, ça va percer. Quand on veut aller trop vite, ça marche pas. C'est le temps. Enfin, le temps et la matière, on est obligé de les respecter, de toute façon. Ça. Et puis après, il y a même sur des assemblages bois, au début, on voulait faire un peu vite à notre manière. Et puis on se rend compte qu'au final, le travail était chiant. Enfin, c'était pas très intéressant. Et on revient sur des assemblages très, très traditionnels qui sont beaucoup plus intéressants à faire, puisqu'il y a du travail, ça prend autant de temps, mais il y a un vrai travail à la main qui est beaucoup plus passionnant. Et puis l'assemblage tient mieux. Donc c'est savoir-faire revient à nous dans certains cas de figure. C'est assez étonnant. Et puis nous, on est sur des collections qui sont assez... On fait à chaque fois en édition limitée. Donc on est sur 10, 15 exemplaires, ça va jusqu'à 40 suivant les pièces. Et il y a des pièces, il n'y en a pas 10 qui sont faites pareil, quoi. Et visuellement, on pourrait les mettre les 10 l'une à côté de l'autre. Il y a des gens qui ne verraient pas vraiment de différence. Mais pour nous, les différences sont énormes, quoi. Parce qu'on a, sur cette histoire de savoir-faire, c'est pareil en fait. On s'améliore finalement. Et les premiers défauts, et c'était aussi tout le charme, et c'est ça que les gens appréciaient, c'était les défauts qu'il y avait dans les pièces aussi. Je parle surtout du cuivre, des choses comme ça. Mais en s'améliorant, c'est d'autres défauts qui arrivent. Parce qu'on arrive à gommer, à être plus bosselé. Mais quand on est plus bosselé, la moindre rayure, elle devient super visible, quoi. Donc après, il faut. Voilà. Donc ouais, je pense que les règles de l'art, elles reviennent à nous en fait, naturellement. C'est pas nous qui on aurait voulu les mettre de côté, mais non, elles sont. Mais bon, quand je dis règles de l'art, c'est vraiment la temporalité et la matière surtout. Mais ça, c'est pareil, je pense, pour le verre encore plus et le cuivre. J'imagine que c'est pareil.
C'est Sébastien, toi de ton côté, t'es complètement transgressif. Je le tiens, mon transgressif, là, tu fais des sacs, mais t'es pas du tout maroquinier, avec des techniques qui nécessitent même pas de couture. Tu te situes comment par rapport au métier de maroquinier, par exemple? Est-ce que t'as des échos, des professionnels?
Non, c'est une question très récurrente. En fait, je suis un peu bloqué depuis le début, parce que je sais qu'entre nous, c'est un sujet de discussion qui est récurrent. Cette histoire de couture et de respect, donc depuis tout à l'heure, quelque part, je n'ose pas parler. Parce que justement, je me sens transgressif, mais en fait, moi, déjà, à aucun moment, je me suis dit, voilà, je vais révolutionner la technique ou je ne sais pas quoi. Je pense qu'il y a une confusion du fait du terme maroquinerie, tu vois, qui désigne autant l'objet final qu'un ensemble de techniques traditionnelles. Mais moi, je voulais juste faire des sacs pour plaider. Ensuite, je pense, par rapport à ce qui a été dit précédemment, ce qui me semble le plus important, c'est de savoir, à l'intérieur d'un domaine, quel territoire on décide d'occuper et comment on connecte peut-être d'autres bouts de territoire, comment on les étend. Du coup, moi, je me place pas du tout... Enfin, tu vois, à aucun moment, j'ai une posture qui consiste à transgresser. C'est plutôt « je ne sais pas coudre ». Dans un contexte particulier, j'ai fait un sac sans couture. Petit à petit, je me suis aperçu, déjà comme je suis designer à la base, plutôt qu'artisan, j'aimais beaucoup faire de la conception, donc je passe beaucoup plus de temps à concevoir le périmètre de découpe que à fabriquer, concrètement. Enfin, ça dépend de l'importance des séries. Et j'ai perdu le fil, du coup. Mais non, mais voilà, en fait, dans mon cas, ce qui est important, parce que moi, j'ai du mal à utiliser les libertés, donc j'ai besoin de me poser beaucoup de contraintes, et le fait de me dire je vais travailler avec une seule feuille, il n'y aura pas de couture, et un ensemble de règles comme ça me permet de travailler. Si je pouvais faire n'importe, enfin tu vois, si j'avais plus de possibilités, en fait, je pense que je partirais en tous sens et qu'effectivement le mur serait blindé d'idées que j'ai jamais le temps de développer. Donc là, ça me canalise, en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
Non, justement, c'est une bonne transgression, je te remercie. De ton côté, Gérard, tu es passé sur un autre support, en fait.
Je transgresse aussi.
Je ne sais pas, en fait. C'est une question que je me suis posée. Comme c'était dans ma liste, je me suis dit que j'avais trouvé le bon angle d'attaque. Aujourd'hui, tu travailles sur les sous-cylindres de Mésopotamie. C'est un changement de support. Qu'est-ce qui t'a amené à changer ce support? Qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce nouveau défi? Comment tu l'as abordé?
C'est simple. Moi, je crois que enfin, puisque la transgression est de rigueur là, je crois que je suis amené à transgresser quand je suis vraiment paumé et que tu es obligé de faire un peu, non pas table rase, mais faire le point. Et moi, j'aime bien quand je suis perdu, ça c'était similaire avec le sport, tu retournes aux fondamentaux. Et j'entends par fondamentaux, tu en as tellement dénigré l'origine, on a tellement raillé le, je dirais pas le passé, parce que tu te fais flinguer, mais l'antérieur. Alors que ça, quand tu y retournes, ça peut te redonner une énergie pour envisager un avenir. Et moi, je me rassure très souvent avec cette espèce de d'arborescence temporelle et d'aller chercher dans les origines de ce que je fais le sens et pourquoi. Quand tu graves pendant 50 ans, tu voudrais bien savoir pourquoi au fond. Voilà. Et donc, la première étape, en effet, c'est d'aller... parce que t'es jamais perdu tout seul sur ta profession. Tu peux être perdu aussi dans ta vie. Et donc, le sous-cylindre, c'est 6000 ans, c'est la Mésopotamie. Et donc, la Mésopotamie, c'est quand même... Alors, c'est terrible en ce moment, parce que, bon, voilà, c'est l'Irak, c'est la Syrie, et t'as envie d'y aller, justement, et puis c'est compliqué, quoi. Mais tout vient de là. Donc notre société, notre culture, en grande partie, vient de cet endroit, entre le Tigre et l'Euphrate. Et donc, et mon métier, vient aussi de là. Alors, tu peux aller plus loin, tu peux aller sur dans les grottes, tu peux aller à Lascaux, et là, tu vas trouver des graveurs. Mais le fait de communiquer, de multiplier de les premières tablettes, les premières communications, on s'y mille ans. Et donc, j'ai été chercher le plus loin possible, avant l'écriture, avant le papier. Donc la seule chose, les gars s'étaient aperçus qu'en mettant le pied dans la glaise, eh ben, ça laissait une empreinte. Donc ils ont fait des gravures sur des cylindres, ils ont roulé sur de l'argile, ils ont cuit et ils ont raconté des histoires et ils ont transmis. Et donc j'ai eu une phase comme ça où il y a eu besoin, en effet, d'aller chercher très loin pour se ressourcer, et voilà. Et puis tout à l'heure j'ai évoqué le fait de graver petit et que finalement la communication elle se fait pas tellement, peu de gens voient ce que tu fais à moins de faire des photos et les agrandir 20 fois et donc j'ai oui une nouvelle transgression, c'est-à-dire que j'ai voulu en même temps dire bon bah voilà on grave depuis 30 000 ans, 6 000 ans, ce que tu veux, mais la gravure en l'ouvrant on peut découvrir la terre et on peut découvrir le verre. Et aujourd'hui, je pars toujours de mes gravures, de l'essence même, des sauts cylindres. Je les scanne, je les numérise, je les agrandis. Si je fais un petit animal de 5 mm, je l'agrandis 15 fois ou 20 fois. J'en fais des empreintes, je ne sais pas si on ne voit pas trop là-dessus. Et puis, je thermoforme et je suis passé sur des matériaux beaucoup. Comme le verre, par exemple, mais qui est beaucoup plus visible. Et je suis passé d'un centimètre carré, pour raconter mes histoires, à la dernière expo qu'on a fait au Japon, bon, bah, il y avait 9 mètres. Enfin, je suis passé d'un centimètre carré à 9 mètres de long. Et en même temps, j'ai appliqué ce que j'ai enseigné pendant 25 ans. Si tu veux, c'est-à-dire aller rechercher quelque chose qui vous permettra de rebondir le jour où il y aura des difficultés, où finalement ce que vous faites c'est plus dans la tendance, c'est plus dans la mouvance. Alors plutôt que de dire bon c'est mort, non, retournez aux racines et rebondissez, repartez en avant. C'est un petit peu ça. Et moi que la gravure serve à faire du verre, bon bah très bien, je me dis enfin, en effet, oui, je l'ai enseigné. Maintenant, c'est peut-être à moi de le pratiquer quand même. Voilà. Donc ça, je ne sais pas si tu appelles ça de la transgression.
Ouais, oui.
En tout cas, oui, paumé, mais à chaque transgression, c'est vraiment du bonheur. Parce que, voilà, et tu redeviens apprenti. Donc, je suis très content d'être apprenti verrier, apprenti céramiste, de fait. Voilà, tu n'as jamais fini d'apprendre. Mais je pars toujours de la petite graine. Et pour moi, la petite graine, c'est la gravure, c'est la... Tu vois, l'échelle. Voilà, j'aime toujours graver à 2-3 mm pour ensuite te donner à voir sur 9 mètres. Ouais, ouais.
Merci. Alberto, cette notion de rupture, cette notion d'innovation, finalement, est-ce qu'elle est nécessaire à la survie des métiers d'art? Est-ce qu'elle est inhérente, probablement depuis des siècles?
Oui, mais la transgression, moi, c'est un mot que j'aime pas trop parce que dans les années 80, Amanda Lear, c'était la transgression. Aujourd'hui, Amanda Lear, elle donne l'impression qu'elle vient de sortir du couvent des Ursulines. Donc la transgression vraiment vieillit à la vitesse de la lumière. Par contre, évidemment, ce que nous voyons, c'est que les métiers d'art qui ont su, pas suivre, mais quelquefois anticiper les changements du temps, sont les métiers d'art qui vraiment ont toujours été contemporains. Parce qu'il y a une chose qui met ensemble les choses les plus précieuses dans la vie des hommes. Je pense évidemment l'eau, les sangs, les tempes, l'argent. C'est la métaphore de la fluidité. Toutes ces choses ont de la valeur s'ils sont en mouvement. Les sangs qui est en mouvement, c'est les sangs qui est dans un corps vivant. Les sangs qui n'a pas de mouvement, c'est dans un corps mort. Alors là, évidemment, c'est les mouvements qui donnent vie, qui donnent de la valeur. Alors plus qu'une transgression, c'est une transformation consciente qui nous porte, évidemment, à amener des changements, mais qui soient vraiment génératifs. Et trop de fois, on a sacrifié la beauté sous l'autel de la nouveauté. Alors c'est pas la nouveauté pour elle-même, c'est une nouveauté générative, de laquelle quelque chose de nouvel sortira et qui portera vraiment du bon fruit pour le monde entier. Évidemment, aujourd'hui, on utilise la voiture, on n'utilise pas la carrosse, donc les artisans qui faisaient les carrosses du 18e siècle, et c'est clair que c'est passé. Mais par contre, les brodeurs qui faisaient les robes selon la broderie, la technique Lunéville au 19e siècle pour Charles Worth, aujourd'hui encore, il n'y a aucune machine qui arrive à faire la broderie Lunéville selon ces techniques-là. Aujourd'hui, il n'y a plus Charles Worth, il y a Miuccia Prada, Jean-Paul Gaultier et Dolce & Gabbana. Le style est différent, mais la technique est la même. Les brodeurs qui arrivent à se rendre interprètes des nouveaux esprits du temple, et là, évidemment, sont transgressifs, je ne sais pas, mais sans doute, ils permettent ces mouvements vitaux, parce que sinon, c'est comme les métiers d'art colérique de temps en temps, d'être comme la collection des papillons que nous voyons au musée. Magnifique, mais morte.
Merci beaucoup. Bon, vous l'avez compris, le terme transgression ne s'applique pas très bien à cet échange, donc je ne vais pas insister. J'ai encore quelques questions à vous poser, mais c'est des questions sur la transmission. Je me dis que ça peut être le démarrage du débat aussi avec le public. Je voudrais de manière générale avoir votre avis, c'était un peu le sens des questions que vous avez échangées avec vous, sur votre point de vue sur la transmission, sur le mode de transmission que vous souhaiteriez adopter, vous, pour ceux qui sont professeurs, je pense aux designers, je pense à Gérard, je pense à vous aussi, Alberto, peut-être nous dire quelle est votre manière d'entrevoir cette transmission, et pour les autres qui l'ont vécu en atelier, comment vous imagineriez cette école idéale ou ce mode de transmission idéal. Je vous propose que la réponse se fasse de manière spontanée. Qui souhaite prendre la parole sur ce thème? Ou alors je vous vise directement. Ça, c'est en page 4, normalement, Jérémy.
Page 4. Alors, non, en fait, mon rêve depuis le début, c'est d'ouvrir une école d'artisans. Donc, j'y pense beaucoup. Quand j'imagine une école sur les métiers d'art ou l'artisanat, je pense que, alors après, je n'ai jamais été à l'école, donc c'est un peu compliqué à juger, je ne suis pas dedans, donc c'est un peu dur, mais de ce que je comprends, j'inverserai les rôles dans un atelier d'école, c'est-à-dire que le professeur ne serait pas au service des élèves, mais les élèves seraient au service du professeur. Et le professeur, c'est le maître qui serait dans sa créativité et ses élèves l'aideraient à accomplir ce qu'il doit accomplir. Donc, comme un atelier, en fait. Pour réinverser la chose pour que le savoir-faire reprenne sa valeur. Parce que quelque part, et ça, c'est vraiment mon expérience personnelle, mais des écoles de soufflage où j'ai pu traverser, c'est vrai que les professeurs, au bout d'un moment, il y a quelque chose qui manque, parce que c'était des maîtres à un moment, et maintenant, ils sont profs, et puis les élèves, la matière est gratuite toute la journée, alors ça y va, et puis ils sortent de l'école, et ils n'ont pas du tout la notion de la matière et du respect du savoir-faire. Et j'ai eu cette idée. Il y a une école aux États-Unis qui s'appelle RIT, Rochester Institute of Technology, qui impose à ses professeurs, c'est une école de métier d'artisanat, entre autres, qui impose, et je trouve ça super intéressant, qui impose à ses professeurs, 2 jours par semaine, de travailler sur leur propre travail et d'impliquer les élèves. Et du coup, c'est aux États-Unis une des écoles les plus réputées pour les savoir-faire, et je pense, entre autres, c'est à cause de ça. Parce que du coup, il y a eu aussi un dynamisme avec les professeurs qui reste toujours vivant. Et ça oblige les professeurs à rester dans la réalité des marchés, de se défendre, d'être dans l'économie, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc voilà, c'était mon... Voilà, l'école, c'est comme ça que je l'imagine.
Une autre contribution, transgressive ou pas, hein?
Très
très rapidement, mais c'est vrai qu'avec Pierre, on enseigne à l'école Camondo. Alors, c'est particulier parce que c'est un enseignement, c'est un atelier de projet. Donc, on donne un sujet aux étudiants et ils y répondent en plusieurs semaines. On ne va pas rentrer dans le débat des écoles d'art ou de design qui sera un autre sujet. Mais en tout cas, ce que j'estime être important dans la transmission, parce qu'on n'enseigne pas des matières théoriques qui s'apprennent avec tel et tel savoir-faire à donner, enfin à transmettre. C'est plus impalpable, c'est ça qui est compliqué dans un atelier de projet. Mais je pense que ce qui est très important, c'est que justement les enseignants soient dans le métier, actifs, parce que c'est ça qui permet quand même de garder un pied dans la réalité. Et en tout cas, moi, c'est ce que je fais avec mes étudiants, c'est leur parler de comment ça se passe, le métier dans la vraie vie, parce que quand on est à l'école, on ne se rend pas forcément compte de la manière dont on pratique la discipline qu'on est en train d'apprendre. Et je pense que, en tout cas pour ma part, moi j'ai fait une école où nos profs à l'époque étaient pourtant des créateurs reconnus dans leur époque, etc. Mais ils ne nous parlaient jamais du métier et encore moins des difficultés. Et je pense que c'est très important parce que il y a un moment, c'est très bien d'apprendre à conceptualiser une idée, etc. Mais c'est bien aussi de savoir après comment est-ce que cette idée, elle va pouvoir prendre corps dans un contexte économique, etc. Donc voilà, c'est en tout cas, je pense que c'est quelque chose d'important à transmettre, la notion du réel.
Quand chaque jeudi matin, je trouve devant moi mes 99 élèves de design, je rappelle toujours ce que les grands cuisiniers Gualtiero Marchesi avaient toujours dit. L'exemple est la plus importante forme d'enseignement. Et c'est pour ça que moi, en premier, je cherche d'être enthousiaste parce que démotiver les jeunes, c'est vraiment... Moi, je suis catholique, je pense que c'est le péché qui va nous porter à l'enfer. Enlever des espoirs aux jeunes générations, c'est vraiment la chose la plus terrible qu'on peut arriver à faire. Donc, comme professeur, je pense que nous devons être enthousiastes et nous devons être préparés. Parce que nous avons la responsabilité de passer le message à ceux qui seront les auteurs des formes, de la beauté de demain, qui sont capables de le faire. Parce qu'ils sont les regards qu'on dit, mais nous, je veux dire, il y a eu Michelangelo, Léonard, Raphaël, ben, et nous, et vous quoi? Et vous, vous êtes vraiment les formalisateurs de la beauté de demain, et vous êtes capables de le faire. Donc, sans faire le talent show comme à la série, ah oui, bon, fabuleuse, brava, quand tu es capable de rien faire, mais quand même faire passer un message d'enthousiasme et des valeurs de la culture, le fait de faire partie du 5% de la jeunesse du monde qui a accès à une éducation supérieure. Mais si le changement en positif ne vient pas de vous, mais de qui ce changement doit venir? Donc, à mon avis, c'est ça qui nous motive et qui doit toujours nous motiver.
Marc?
Bien, beaucoup de choses ont été dites. En quelques mots, je trouve que l'acte de former, la formation, doit venir effectivement de personnes qui sont dans le métier. C'est-à-dire que la pratique est importante. Et effectivement, on a parlé d'enthousiasme, mais c'est vrai que quand on forme, on donne une partie de soi-même. Je dis souvent, on a des formateurs qui sont dans la salle, je dis souvent que former, c'est un huis clos, c'est une pièce de théâtre. C'est-à-dire qu'on est en direct face à des jeunes, face à une matière, et c'est très, très, très exigeant. Et franchement, on apprend beaucoup en formant, et les jeunes nous le donnent aussi énormément. Quoi de plus fabuleux que de former des générations futures, puisque sans transmission, sans formation, rien ne serait possible. Je pense que c'est un peu des fondements. Voilà. Et sincèrement, on nous le rend bien. Un métier, c'est vivant. Un métier, c'est beaucoup de tradition, beaucoup de savoir-faire, mais c'est aussi beaucoup de remise en question, puisque, encore une fois, un métier ne s'inscrit que s'il répond à un besoin. Je pense aussi que, pour compléter un peu sur le volet de la transgression, on apprend beaucoup, on crée beaucoup par la contrainte, par des notions de contrainte. Je pense que ça aussi, c'est un ensemble de choses. En tout cas, un métier, c'est à la fois une façon d'être, une vie, hein, globalement, et ça apporte énormément. Et je pense aussi que grâce à ce métier, ça permet à l'homme, avec un grand H bien évidemment, de pouvoir s'exprimer, de dépasser ce simple cadre, je dirais, structurel ou technique, puisque au-delà de cette technique, je pense qu'on apporte énormément de valeur ajoutée.
Et Gérard, une question à toi qui est en train de... Ah oui, c'est la fin de la journée, la fin de la semaine. Non, je vois Sarah dans l'assemblée, bonjour.
Sarah est là, oui.
Sarah Bougot, qui a rejoint ton atelier pour en assurer la continuité. Alors ça, c'est une sacrée transmission. Et je voulais savoir comment s'opérait cette transmission. Est-ce que c'est à sens unique, du maître vers l'élève? Est-ce que...
Bon,
Gérard, la parole est ouverte.
On parlait des écoles. Moi, je fais quand même la distinction entre la formation et la transmission. Tu peux transmettre au sein d'une formation. Parce que transmettre, c'est-à-dire qu'il faut un émetteur et un récepteur et un échange. Et on évoquait tout à l'heure, je crois que c'est Jérémy avec cette école où les élèves aide le maître. Dans une transmission, il y avait vraiment un échange profond. Moi, dans le cadre de la transmission, j'ai toujours appris. Bon, bien sûr, tu peux dire que tu apprends de tes élèves, et même dans la formation. La formation, tu donnes des conseils, tu t'inculques un savoir-faire. Après, tu ne sais pas toujours si c'est passé ou pas. Dans une transmission, c'est là vraiment, tu as le retour, tu as l'échange, la communication. Et ça va tellement plus loin que le savoir-faire, tellement plus loin que le geste. Bon, tu parlais de Sarah. Bah, Sarah, on a eu la chance de tomber au bon moment. Même si je la connaissais, je l'ai eu 3 ans à Estienne en cours. Après, on ne s'est pas vu pendant 10 ans, 15 ans, je ne sais pas. Pas tant que ça quand même, t'es jeune. Et on s'est retrouvés, mais parce que à ce moment-là, j'étais dans une posture, Sarah était également dans une, et on a, les planètes ont convergé. Et donc, du coup, en gros, je lui ai dit, est-ce que tu veux que je te transmette? Mais c'était un tout. C'était du savoir-faire, c'était un atelier, c'était du matériel, c'était des clients, c'était un esprit. Et finalement, le plus important, c'est l'esprit. Savoir-faire, bon, mais bon, et puis maintenant, je lui laisse beaucoup d'autonomie. Trop à son goût, peut-être, je ne sais pas. Bon, il faudra qu'elle puisse parler. Mais c'est, en tout cas, c'est un vrai bonheur quand tu passes une vie de recherche, d'amélioration, de tout ce que tu veux, de toutes les transgressions possibles. Parce qu'elle sait aussi transgresser, ça va, il n'y a pas de souci. Et quand tu finis justement par arriver à pérenniser tout ce que tu as mis en place et qu'en plus c'est régénéré et redéveloppé, parce que la personne à qui tu as transmis, elle est capable non pas de juste prendre ce que tu lui donnes, mais de le magnifier. Là, bon, c'est bien, c'est bon. Qu'est-ce que tu en penses?
Alors moi je suis vraiment ravie de cet échange et du récit de chacun, ça m'aide à y voir clair. Ça fait un an et demi donc, que je reprends et c'est déjà extraordinaire, c'est génial d'avoir son atelier, c'est vraiment énorme. Et par contre j'avoue que c'est une densité, pour tous, absolument, il se passe tout ce que vous avez décrit. S'approprier une technique où on veut répéter un geste, comprendre le fonctionnement du métier immédiat, la mémoire du métier plus largement, avant nous, des graveurs qui ont travaillé dans d'autres conditions. En fait, assembler toutes les pièces du puzzle, se poser la question du fond, produire sa propre écriture et toujours travailler le geste en fond, en faire... au bout d'un an et demi, s'il n'y avait pas tous ces récits d'autres personnes qui pratiquent,
et qui finalement témoignent du fait que c'est normal. Je pense qu'on imploserait de bonnes choses, mais c'est en fait le plus dur, je crois, sur un début comme ça, enfin qui n'en est pas un, parce que j'ai quand même 13 ans de gravure avant de commencer à reprendre l'atelier, mais c'est dans des conditions absolument parfaites, avec une vraie autonomie, parce que Gérard me laisse libre même de déplacer les, les objets dans l'atelier. Est-ce que... non, ce qui n'est pas une mince affaire, parce que ils ne sont pas arrivés à l'endroit où ils sont pour n'importe quelle raison qui corresponde à une efficacité du geste. Alors, quand on n'a pas tout à fait la même corpulence, les choses changent. Je suis beaucoup plus petite et ça compte. Mais je suis rassurée de voir que j'ai le temps de hiérarchiser, de mettre les choses dans un ordre et dans un autre, et d'avancer, et que tout ça est très normal. Et je suis très contente de pouvoir le faire. Et merci de partager.
Merci beaucoup. D'autres questions éventuellement à Liv?
C'est le témoin. Bonjour à tous, je m'appelle Annelise Marcheteau, je suis formatrice chez les Compagnons du Devoir, en cordonnerie-boîterie. C'est pas vraiment une question, c'est plutôt un témoignage. J'ai été disciple au départ chez les Compagnons. J'ai adoré d'ailleurs cette discipline, mais j'avais une frustration quand même de la relation maître et disciple dans le questionnement du pourquoi. Pourquoi on fait comme ça? Et généralement c'était parce que c'est comme ça. J'ai continué mon périple professionnel en voulant toujours répondre à la question pourquoi, et j'aime à penser que ma position de formatrice actuellement peut ouvrir l'esprit de mes jeunes à justement ce côté autodidacte, pour qu'ils se posent la question toujours du pourquoi et d'amener des questions à leur méthode, pour qu'ils puissent choisir la méthode qui leur paraît personnelle et mieux pour eux, quoi. Ouais, c'est plutôt un témoignage. Et l'échange est très riche aujourd'hui, j'apprécie beaucoup.
C'est pas vraiment une question. Je suis Emma Léa Maréchal, je suis formatrice chez les Compagnons du Devoir aussi, en cordonnier bottier. Moi, j'en suis à un stade particulier où, en fait, il y a un an, j'étais de l'autre côté de la barrière, je suis sur le Tour de France. Je rentre de mon année à l'étranger. Et en fait, je suis passée directement cette année de l'autre côté de la barrière à être formatrice, alors que moi aussi, en fait, je continue à me former. Et ce que je voulais savoir, ou est-ce que vous avez des choses à nous dire sur la jeunesse de nos jeunes, enfin, le fait qu'ils pétillent, qu'ils arrivent, qu'ils viennent chercher des choses. Moi, dans la relation maître-disciple, ce que j'ai vu sur mon parcours et ce que je vois maintenant avec mes jeunes, c'est... on n'avance pas mieux en fait qu'avec des gens qui ont envie d'apprendre, envie de nous décortiquer et d'avoir tout ce qu'on a à l'intérieur. Et je voulais savoir si c'était vraiment un moteur pour vous de transmettre comme... Enfin, moi, ça l'est énormément. Ça me pousse plus que par mon propre intérêt personnel de savoir que je dois apprendre quelque chose parce que j'ai un autre jeune derrière qui a les crocs et qui veut l'entendre. Et oui, je voudrais savoir en gros si vous... Enfin, en quoi... c'est pertinent et c'est riche pour vous de transmettre à votre tour, que vous soyez maître parce qu'on vous a transmis, ou que vous soyez autodidacte.
Qui souhaite répondre à la question? Jérémy.
Dans l'atelier, on essaye de prendre le plus de stagiaires, d'apprentis possible. Et souvent, ça nous coûte plus que ça nous donne, de façon pragmatique. Mais la raison pourquoi c'est hyper important, je pense que c'est pour nous, c'est très égoïste en fait. C'est, on ne se perd pas dans notre folie. Enfin, je ne sais pas si vous avez eu cette expérience-là, mais moi, au bout de, enfin, des fois, j'oublie. Enfin, je pense, je suis un peu seul sur ma petite île, et j'oublie d'où je viens, et j'oublie ces yeux que j'avais quand j'étais jeune, et de voir ces jeunes rentrer dans l'atelier, des fois de 14-15 ans, avec des grands yeux comme ça, et de savoir l'aventure dans laquelle ils rentrent, et d'être au début de ça, et d'y contribuer, et tout d'un coup, ça formalise quelque chose, ça valide quelque chose dans notre expérience qui est, je pense, très très riche. Et du coup, on rentre dans l'humilité de ce qu'on nous a transmis. Et souvent, j'imagine mes maîtres, quand j'étais jeune et qui me voyaient arriver dans l'atelier, bon, des fois c'était en catastrophe, mais j'avais ces grands yeux-là. Et donc, je les imagine avoir les mêmes réactions. Et donc, c'est un peu la boucle qui se boucle. Et je pense que ce moment-là est ouais, un moment pilier dans la vie d'un atelier.
En deux mots, je pense que la chance de pouvoir transmettre son métier à des plus jeunes, ça permet de rester jeune. Et je pense que c'est vraiment un bienfait, ça va même être presque remboursé par la Sécu, parce que c'est une chance que de pouvoir se remettre en question. Pour moi, c'est une réelle remise en question. Et c'est vrai que de pouvoir donner la chance et de s'ouvrir soi-même à un contexte, c'est vraiment très très riche. Et on apprend, encore une fois, je pense qu'on apprend encore plus que ces mêmes jeunes qui viennent recevoir. Et quand on est dans cet échange-là, c'est tout de suite parfait. Et quand on dit, l'idée c'est de se faire dépasser, parce que c'est ça qui est quand même aussi intéressant, c'est être étonné. Aujourd'hui aussi, on a aussi des pédagogies inversées. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui, par leur diversité, leur culture, éventuellement des techniques contemporaines, peuvent aussi apprendre à un plus ancien, ce qui était un peu moins vrai avant. Donc là, on est vraiment dans un partage, et quand le partage est là, c'est tout de suite parfait.
Les poser en direct à nos amis. Je vais passer le micro à Nicolas qui a une annonce à faire ou à rappeler. Donc le petit Nicolas est attendu.
Merci. C'est vrai. On avait dit non conventionnel et on se retrouve dans un amphithéâtre très académique et en fait on voulait une rencontre non académique. Non, je disais que je voulais juste vous dire que nous on a imaginé une préfiguration d'une école des futurs, des métiers d'art. Notamment la création, et elle est, c'est ce qu'on vous présente dans notre exposition. Ce n'est pas une exposition, c'est plutôt une installation d'ailleurs, qui est vivante, comme ces métiers, et qui veut montrer toute l'interactivité qui est possible dans ces savoir-faire en dialogue. Et dans l'école des futurs, donc nous, on écrit l'artisan avec un YZ, vous verrez pourquoi. On hybride les savoir-faire le plus possible et on a proposé une organisation nouvelle du travail dans l'atelier, à travers un laboratoire. Un atelier laboratoire des savoir-faire, le Craft Lab. Laboratoire parce que je suis persuadé que les artisans doivent être des chercheurs d'une certaine manière. Et donc le Craft Lab, quelqu'un des étudiants, Maxime, du projet a dit que ça sonnait trop hipster, que ça sonnait joli quand même, mais il y a quand même une idée derrière, enfin dedans, enfin on espère, et on vous invite à aller le découvrir. Voilà. Donc notre équation pour le futur dans ce projet, vous verrez, c'est de briser les frontières, d'inventer de nouvelles règles, de tisser l'espace, de filer le temps.
Non, moi je voulais juste rajouter que j'étais très content qu'on accueille cette rencontre ici au CNAM, parce qu'à mon avis c'est quand même aussi porteur de sens que des artisans reviennent ici au conservatoire alors qu'ils y étaient beaucoup au 19e et qu'ils ont été un petit peu sorti au 20e, et si au 21e ils peuvent revenir, et notamment cette diversité d'artisanat-là qui essaye d'avoir une réflexivité sur sa pratique. Voilà, donc merci beaucoup d'être venu.
Merci à tous. Alors, juste pour votre information, certains d'entre vous exposent pour les GEMA. Vous pourriez juste impliquer. Alors, qui expose ? Sébastien, c'est sûr.
L'atelier
de Jérémy est ouvert.
Sébastien, il expose dans un pop-up store, c'est ça, à côté, dans le quartier. Voilà, 51 rue Volta. Et donc, il y a 22 pop-up stores, en fait, qui animent tout le quartier, là, autour du musée. Donc, allez-y. Et puis, ce soir, au pop-up de l'INMA, pour découvrir les anciens lauréats du prix à venir et les anciens bénéficiaires de notre prêt d'honneur entrepreneur, et donc, aujourd'hui, qui créent leur... qui produisent leur production et qui le vendent. Voilà.
C'est sympa. Et les Compagnons du Devoir sont 7 rue du Verbois, donc dans le même triangle arts et métiers, avec des projets collaboratifs qui sont aussi une réponse aux questions qu'on a évoquées aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à passer nous voir. Ben, merci à tous et bon week-end, bon GEMA.